Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce 25e chapitre d'Histoire de Gamer. Bon, un petit peu en retard, j'étais supposé en faire un pour le mois d'octobre, ce qui ne s'est pas passé. Vraiment, mon horaire est assez occupé, il a fallu que je saute par-dessus, mais je suis de retour en force. Et puis pour compenser, ben, je me suis dit, ben pourquoi pas inviter deux invités en un. Donc oui, on voit double ce mois-ci parce que j'ai invité Max et Jean-François Bédard, les jumeaux techno. Salut les gars.
Salut.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça aurait été mieux si on avait dit salut en même temps, mais bon, ça n'a pas marché cette fois-ci.
Ouais, vous êtes normalement, vous seriez supposé être synchro, stéréo, toute la patente, non?
Non, ça c'est... Le monde pense ça, mais bon, c'est
pas... Il y a du lag aujourd'hui.
il y a du lag entre la transmission Wi-Fi entre vous deux.
Non, dans le bro-fi.
Dans le bro-fi, ok, c'est du bro-fi. Non, c'est ça, parce que je me dis, t'sais, des gars qui ont partagé la même poche puis toute la kit, puis qui ont grandi ensemble devraient être plus synchro que ça, mais bon, vous me décevez un peu, mais c'est pas grave. Donc les gars, merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça vraiment le fun de votre part de venir faire un tour, puis jaser un peu de votre histoire de gaming avec moi. Gaming et plus, parce que je pense que vous êtes des gars qui ont, comme genre, pas mal de talent avec tout ce que vous faites. Bon, c'est les jumeaux techno, c'est un podcast, c'est des bandes dessinées, c'est jumeaux techno TV, c'est du gaming, c'est toutes sortes d'affaires. Comment ça vous est venu l'idée de partir un site jumeaux techno? Vous n'êtes pas les seuls jumeaux sur la planète, là. C'est quoi qui a fait que vous partagez une passion? Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé ça, ce site-là, ou même le compte Twitter, les jumeaux techno?
Bon. Fait que ça, pour pouvoir déterminer ce qui est arrivé, il faut reculer un peu dans le temps, en 2010. C'était, si je me trompe pas, c'était septembre 2010, c'est ça? Puis j'étais entre deux jobs, ça faisait pas longtemps que je venais de perdre mon emploi. Fait que moi, j'étais un peu plus souvent à la maison dans les derniers temps. Fait que je travaillais un peu sur des dessins, des concepts, puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour occuper mon temps? Fait que là, Max et moi, on a commencé à discuter, parce que ça faisait longtemps qu'on disait qu'on devrait faire une collaboration ensemble. Puisque moi, je suis quand même pas pire en dessin. Puis Max, lui, est quand même bon aussi en écriture. Fait qu'on a dit, hey, on pourrait fusionner ses talents pour faire exactement de quoi avec ça. Puis sans s'entretuer en cours aussi, ce serait le fun.
Ouais, c'est ben, quand même un plus.
Ouais, toujours.
Parce que certains partenariats pour les BD, écrivains plus artistes, des fois, ça finit pas super bien. Il y a des assinages, puis des désagréments et des... autre chose.
Les légers voies de fait aussi.
Ouais, ben.
En même temps que ça reste léger, c'est pas pire.
Ouais, c'est important.
On venait juste de déménager ensemble, mais semble que c'était en 2010.
Ouais, ça faisait comme un ou deux mois qu'on avait aménagé ensemble.
C'est ça, fait que là, t'avais beaucoup de temps libre, puis là, on avait parlé. Tu sais, il me semble que, tu sais, au Québec, au niveau des BD, il n'y a pas grand chose pour les gamers, disons. Il n'y avait pas beaucoup de BD qui faisaient un petit peu de style Penny Arcade.
Une de nos grandes inspirations d'ailleurs, on va pas se mentir.
Ouais, ok, c'est bon. Non, c'est une bonne inspiration à avoir d'eux, à s'inspirer d'eux, mettons.
Ça fait que là, on en a parlé pendant un bout. Là, Jeff s'est mis à faire des dessins, on aurait l'air de quoi, parce que évidemment, si on fait une BD, ça serait une BD avec nous autres dedans.
Mm-hmm.
Un peu dans le même style, on aurait des alter-égos un peu, mais c'est pas des alter-égos tant que nous-mêmes, juste un petit peu différents.
Ben, c'est plus comme nous figés dans le temps en 2010.
Ouais.
Ok, c'est beau.
On avait plus de cheveux.
Ah, mais ça, en bande dessinée, tu peux te mettre tes cheveux super longs si tu veux, c'est pas grave.
Ouais, c'est vrai, c'est un des pouvoirs de ça. Ouais. Sinon, ben, on a commencé à faire une couple de concepts, puis initialement, on avait commencé à faire des bandes dessinées accompagnées de vidéos sur YouTube, qui était comme une représentation avec des voix puis des petites animations de la BD qu'on avait publiée. Puis ça, au début, c'était, oh mon Dieu, c'était vraiment, comment dire, c'était pas très bon.
Ben, c'est parce qu'on venait juste de commencer, là, mais c'est parce que surtout, le début de la BD a commencé avec une idée en particulier. C'était, je retournais du travail, et il y a un bum qui est comme sorti d'une ruelle pour me demander du change, mais vraiment sorti de nulle part, puis j'ai comme sauté 10 pieds dans les airs.
Ok, genre téléporté, là.
Ben, presque à peine, là. C'est... Puis là, moi, dans ma tête, je me suis vu comme Sonic qui perdait ses rings, là. C'est...
Ouais, sa monnaie d'échange.
C'est ça. Puis c'est comme ça qu'un quêteur fait de l'argent version Sonic. C'est...
Il fait peur, puis tout l'argent vole.
C'est ça. Fait que là, ça a été la première BD qu'on a faite. Puis on avait pensé le faire en format vidéo, parce qu'il y aurait des voix, puis presque des animations, on pourrait dire. Puis c'est la première version de ce qu'on appelle maintenant les BD vidéo.
Ouais, c'est comme on a comme séparé les deux concepts en deux affaires séparées, des bandes dessinées normales et des vidéos sur YouTube, mais avant, initialement, c'était les deux en même temps.
OK.
Il y avait la BD, puis il y avait aussi une vidéo qui était une version vidéo de la même BD. Alors, des effets sonores des voix.
C'est comme de l'ouvrage en double, c'est ça va être assez demandant pareil, là.
C'était pas la meilleure méthode, disons. Je me rappelle aussi quand on avait fait les voix pour ça au début, on avait demandé à un de nos amis de faire la voix du bum, là, puis ça avait tourné bien, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait.
OK.
Mais ça, on l'a découvert plus tard, c'était quoi, là? Mais quand on a commencé, on avait enregistré le compte, on avait enregistré le site web, on avait enregistré le compte Twitter puis Facebook. Puis aussi, dans ce temps-là, on avait pensé initialement faire un site bilingue. Fait qu'on avait aussi enregistré twingamers.com, mais ça n'a jamais pris forme.
OK, avez-vous gardé le domaine?
Ouais, on l'a encore.
Moi, je pense qu'on l'a encore, mais c'est parce que le problème, c'est quand tu fais de l'humour dans les deux langues, là, il y a souvent. C'est presque impossible de traduire une joke comme il faut sans en faire une deuxième. Puis là, ça veut dire dessiner deux BD différentes. Puis là, on s'est vu que ça allait pas être possible.
On était paresseux, on a dit
Ben,
fuck
pas qu'on soit paresseux, c'est plus parce que avec des jobs à temps plein, une BD, le contenu, tout ça, à créer comme ça, tu peux pas le faire deux fois, là. Ben, je sais
non.
qu'initialement, quand on avait commencé à faire les bandes dessinées, on en faisait trois fois par semaine. Parce que j'avais pas encore trouvé de boulot. Mais dès que je me suis trouvé une job,
Ça commençait à être un peu off.
on a réduit ça à notre statu quo qui est maintenant tous les vendredis à 11 h.
Bon, ce qui est bien, là, parce que ça, à un moment donné, c'est un passe-temps. C'est sûr, si ça devient un job, c'est youpi, là. Mais c'est plus rare dans au
Ben
Québec.
honnêtement, là, les gens qui sont capables d'en vivre là, de ces genres d'affaires-là, aux États-Unis, c'est rare. Puis aux
Ouais.
États-Unis, il y a un bien plus gros marché pour ça qu'ici au Québec.
C'est ça, ici c'est presque inexistant, là. Ben, c'est inexistant, je te dirais, mais oui.
Ben, on est toujours à peu près, je te dirais, 10 ans à peu près en retard sur les États-Unis. Enfin, tout ce qui est populaire aux États-Unis devient vraiment populaire au Québec après un certain nombre d'années de plus. Fait que je me dis, si jamais éventuellement ça prend plus d'ampleur, ben on va probablement tout être au premier étage, façon de parler.
OK, moi ouais, c'est ça. Au moins vous allez avoir eu de l'expérience, puis vous allez avoir fait un vous allez vous êtes fait un nom. Il y a quand même ça de popé.
Ouais, pas juste nous autres, toi aussi, tu es au ground floor, façon de parler de ce qui va arriver éventuellement au Québec en ce qui concerne la révolution des podcasts, là.
Peut-être.
Parce que là, ça a commencé vraiment fort, puis là, ça s'est calmé, puis là, ça va repartir de plus belle, j'ai l'impression. J'ai comme un feeling.
Mais c'est un beau média, puis ça permet à tout plein de monde d'essayer des choses différentes sans que ça te coûte une fortune. T'es pas obligé de te partir une station de radio avec des antennes puis toute la patente.
Ben, c'est ça, c'est comme la radio, mais sans le budget.
C'est très accessible,
C'est ça.
ça permet à des gens de trouver des discussions sur une panoplie de sujets qu'ils n'auraient pas trouvé nécessairement à, disons, c'est quoi ou quelque chose comme ça, là.
C'est ça. T'aurais pas nécessairement essayé si t'avais eu besoin de sortir des dizaines de milliers de dollars de ta poche pour le faire, tandis qu'un podcast, un ordinateur, une couple de logiciels, puis un micro, puis t'es parti.
Personne, aucun cadre ou de marketing à convaincre que ton idée est bonne.
Non, c'est ça. Juste toi.
C'est ça. Fait que c'est ça, quand on a enregistré notre site, puis on a commencé à faire des BD, on en a profité aussi pour se créer une page Facebook puis Twitter. Puis ben, c'est là que mon aventure avec Twitter a commencé. Parce qu'avant, Jumo Techno, on n'était pas bien ben sur les médias sociaux à part Facebook, là. Fait que j'ai un peu découvert comment Twitter marchait en gérant le compte de Twitter. Parce que pas mal,
Nice.
Twitter, c'est pas mal 80% moi.
Ouais, c'est ça, c'est Max, le gestionnaire de communauté
Ouais.
pour le site, là, parce que.
À cause de mon emploi, parce que je travaille en informatique, des fois, j'ai un peu de lousse pour pouvoir mettre des posts en ligne.
On aimerait dire bonsoir au boss de Maxime, s'il écoute.
Non,
OK.
c'est bon.
Y a pas de danger.
À cause de ça, c'est moi qui est tombé naturellement dans le rôle de gérer la communauté. Je veux dire, c'est quand même. Je trouve que Twitter, c'est quand même une belle place pour avoir beaucoup d'informations très rapidement.
Ouais, les gens qui crachent sur Twitter en disant ah, réseaux sociaux, nanana, là, si tu travailles bien les réseaux sociaux, si tu te fais des bons contacts sur les réseaux sociaux, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes pour plein de choses.
Sérieusement, les rencontres qu'on a faites grâce à Twitter et notre site Internet au cours des années, là, c'est incroyable, là. Juste voir comment que la communauté se rassemble autour de ces sujets-là et comment que les gens sont gentils, ben, généralement, bien entendu, parce que c'est sûr que on peut pas dire communauté sans face à claque ou des choses comme ça.
Non, il y a des épées partout. Ça,
Mais
c'est
ça,
clair.
on s'en sauve pas, puis le plus vite qu'on apprend à se faire une armure, façon de parler contre ces gens-là, le mieux qu'on va être en côté qualité de vie dans le futur.
Ouais, ben, parce que tu peux pas laisser ces gens-là avoir un contrôle sur toi puis ton processus créatif, là. Parce
Non.
que tout le monde a ce problème-là, je pense, c'est que tu peux recevoir des dizaines de commentaires positifs, puis t'es bien content. Mais il t'en faut juste un négatif, là, puis là, t'es pogné, là, ça va te taper ses nerfs, là.
Ah, t'as l'impression que c'est lui qui est attaché avec une punaise après ton mur.
Ben, c'est
C'est
ça.
toujours lui que tu vois. Ouais, ça c'est
J'aime bien
clair.
cette analogie-là, c'est très visuel.
Ouais, les autres sont comme. Ah, t'es entendu, mais l'autre, c'est lui que t'as mis dans ton cubicule avec une punaise. C'est le. T'es pourri.
Ah, ben, c'est ça.
Avec 12 points d'exclamation.
C'est ça, c'est comme. Je sais pas qu'est-ce que ces gens-là ressortent de cet exercice-là, mais ils ont probablement leur raison. Je sais pas pourquoi.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de descendre les autres pour se remonter. Mais ça,
C'est vrai.
c'est clair, là, mais c'est ça. C'est de passer à côté de ces gens-là. Mais vous autres, vous avez réussi, vous avez persévéré, vous avez continué. J'imagine au début, quand tu commences, t'es pas rodé, t'es pas top, t'as peut-être ton animation est pas aussi belle qu'elle pourrait être, tes dessins sont peut-être moins bien que c'était celui aujourd'hui. Fait que vous avez probablement reçu quelques critiques constructives ou même carrément négatives, mais vous avez quand même persévéré.
Ouais, c'est certain qu'il y a eu des commentaires, mais je veux dire, on peut pas les refuser de les écouter parce que, ben, je veux dire, tant que c'est des commentaires constructifs,
C'est ça.
il y a toujours quelque chose à apprendre ou une manière de s'améliorer ou d'apprendre dans certains types de contenu, là, parce que là, c'est surtout au début. Parce que quand tu commences à faire une BD ou un site, tu le fais pas au début pour le nombre de views que tu vas ramasser, là. Tu travailles à monter un site avec tant d'articles, puis tu le fais, puis tu regardes pas le nombre de gens qui viennent le voir, parce que c'est une bonne manière de se décourager. C'est ça. Tu
Ouais.
cherches ta voix aussi au début. Tu sais pas exactement c'est quoi que tu fais, parce que tu sais pas exactement c'est quoi que tu. Tu sais pas encore c'est quoi le truc que tu crées. Puis c'est
Ouais.
après une bonne trentaine de pages ou de trucs comme ça qu'on commence un peu tranquillement à identifier c'est quoi qui fonctionne, puis c'est quoi qui nous intéresse plus là-dedans. Puis tranquillement, pas vite, ben, on façonne ce que c'est devenu éventuellement. Mais tu sais, on est rendu à quoi, là? 235 BD, là? Ben, pas sûr que c'est 200. 235 contenus. Ouais, ben c'est ça. C'est autant les BD que les BD vidéo que tu te quittes, là, quand.
Puis même encore, je suis pas 100% sûr de ce qu'on s'en va, mais je veux dire, on essaye beaucoup de choses, puis on regarde qu'est-ce qui colle moins, puis on travaille là-dessus. C'est un processus qui finira pas, je pense, parce que, tu sais, je veux dire, si t'es content de ton travail, personnellement, moi, je trouve que ça y a un problème.
Ok, tu veux toujours travailler pour t'améliorer
C'est
et
le
non pas juste te contenter de ce que t'es en train de faire présentement.
Confort dans ce genre de truc-là, c'est dangereux.
Ok.
Ouais, ben, il y a certains sites, par exemple, aux États-Unis, qu'ils font des BD, eux autres aussi. Puis, tu regardes eux maintenant, puis eux, il y a 3 ans. Puis, tu vois, en tout cas, il y a certaines personnes au niveau art, où ce que ça semble pas bouger ben, d'année en année. Il y en a d'autres que tu regardes un dessin il y a 3 ans, puis un dessin maintenant, là, puis c'est jour puis nuit, où le style a changé, ou
Ils se
la
sont
direction a
améliorés.
changé. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que si tu t'habitues à quelque chose, tu finis par frapper un mur, hein, c'est évident.
Ouais, c'est inévitable dans toute chose d'ailleurs, hein, je veux
Okay.
dire.
Ça vient de où, cette passion-là pour le dessin? C'est-tu quelque chose que tu as grandi avec ou c'est quelque chose
Ben,
que comme.
c'est drôle que tu en parles parce que j'étais pas vraiment dessinateur quand j'étais jeune. C'est quelque chose que j'ai commencé comme. Je sais de me rappeler ça.
Ah ben c'est drôle parce que quand on était au primaire,
C'était l'inverse.
c'était moi, Max, qui aimait dessiner.
OK.
Puis après ça, Jeff, il a commencé en début 2000. Il
Ouais, c'était
me semble.
comme 2000-2001.
Il a commencé à dessiner, là, puis il passait à travers. T'avais comme une pile de comme 500-600 pages là, qui s'empilaient une sur l'autre, là.
Ouais, parce que moi, je m'étais dit, il y en a qui disent qu'ils sont nés avec ce talent-là. Moi, j'aime croire que j'avais aucun talent là-dedans initialement et que juste avec la persévérance puis une tête de cochon. Je me suis promené sur Internet, puis j'ai réussi à trouver des manières, des guides, puis des trucs comme ça, là, tutorials, comme ils disent, tutoriels. C'est ça, merci Max. Puis au cours des années, à force de se pratiquer puis de voir qu'est-ce qui fonctionnait, je veux dire, j'ose imaginer que je peux s'améliorer, mais je garde toujours au moins une couple de dessins par année. Comme ça, je peux reculer puis aller voir comme en 2003 ça avait l'air de quoi puis pleurer un petit peu, là.
Puis voir au moins que tu t'es amélioré quand même.
C'est un réconfort, honnêtement, parce que c'est comme autre chose d'ailleurs. C'est comme ceux qui font de la course, ils ont comme une barre de comparaison pour dire, OK, je peux faire 1 km en temps de temps, puis avant l'année dernière, c'était en temps de temps, puis une amélioration.
Ben, aussi, c'est bon d'avoir quelqu'un d'autre pour juger ton travail, parce que des fois, les artistes ont un problème où ils vont dire que qu'est-ce qu'ils font, c'est de la merde, puis il n'y a rien que tu peux leur dire qui va dire que c'est bon.
Je vois pas de quoi tu parles.
Fait que là, d'avoir les yeux de quelqu'un d'autre qui te donne une opinion externe, des fois, l'artiste est un petit peu trop proche de son travail pour apprécier. Fait qu'il faut que quelqu'un d'autre y dise, puis il mette la face dedans à répétition pour le convaincre.
Mais il est quand même fin, il t'a appelé un artiste, il aurait pu appeler pire que ça. Il
Ah, ben, ça paraît qu'on enregistre, en fait.
aurait pu te traiter d'un nom pas fin. OK.
Qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on a comme un système critique instauré dans le site à cause que quand moi je prépare de quoi pour la BD, je le montre toujours à Max avant qu'on le pousse plus loin. Comme ça, il peut me dire, OK, le bras il est croche, si c'est pas beau, c'est quoi cette face-là, ou t'as pas mes yeux croches, je sais pas comme ça. Puis tu sais, des choses que je verrais pas initialement parce que je suis tellement dans le dessin que je vois pas les problèmes.
OK.
On a déjà un avantage dans ce cas-là pour ceux qui travaillent tout seuls. Comme ça donne comme une deuxième paire de yeux comme lui il me dit mes erreurs en dessin d'un point de vue extérieur, moi je dis ses fautes d'orthographe quand il fait les textes. Fait que...
Ouais, ben ça, ouais, ça avec le problème d'écriture. Des fois, quand l'écriture est un peu faible,
Ouais.
les erreurs, c'est bon parce que Jeff, il est bien bon en orthographe et en français.
Mais j'ai pas le choix, c'est pour ma job, ça, là.
Moi, j'étais chié. Les informaticiens, le français, ils rushent un peu, disons.
Ouais, c'est ça. Max, il est technicien en informatique et moi, je suis adjoint administratif dans un cabinet d'avocats. Fait que ça fait pas mal de variété d'emplois dans cette chose-là.
Ouais. Au moins ça se complète un peu. Mais je regarde votre dernière BD, puis je dis tu m'énerves, ça a pas dû être trop long à corriger, au moins c'est pas
Ah,
trop
ben, on a pris une tournure un peu plus familière dans nos dialogues récemment parce que je me suis dit, les jumeaux Thénault, c'est un produit québécois. Fait que des fois, on peut lâcher un peu de langage, là.
Ben, je pense que c'est ça que le monde s'attend aussi. Si t'es trop, t'sais, comme, trop, t'sais, français correct, à un moment donné, j'imagine, c'est pas naturel. Fait que
C'est
faut.
la différence entre un français d'un film traduit en français et une émission des Simpsons. En
Ouais.
français, ici.
Ouais. Ou une émission des Simpsons en français de France qui est
Ouais.
totalement différente, t'sais.
C'est.
Ah,
Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens la différence que ça peut faire, ça, c'est incroyable.
ouais. T'sais, c'est comme les Griffin, quand ils ont traduit en québécois, c'est différent. Puis c'est drôle, c'est un mauvais exemple parce que j'écoutais Griffin à Télétoon, puis je me disais, il me semble que traduit en québécois, ça serait tellement bon. Puis après ça, j'ai commencé à l'écouter en québécois, je me suis dit, finalement, c'est pas si bon que ça.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a une balance très fine que tu peux avoir avec ça, parce que les Simpsons l'ont réussi comme il faut, mais les Griffins vont un petit peu trop profond dans la langue québécoise, me semble. Ils exagèrent.
Non, c'est ça.
Moi, personnellement, je trouve qu'ils exagèrent un peu.
Fait que c'est un peu moins bon. Non, je disais pas ça parce que vous avez marqué tu m'énerves, puis que ça a l'air québécois, juste il y a comme une bulle. Fait que ça a pas dû être long à corriger, une bulle.
Ouais, ben, c'est drôle qu'on parle de dialogue comme ça parce que c'est un combat tout le temps parce que quand on fait des dialogues de BD, quand on regarde les premières versions, il y a toujours beaucoup plus de texte parce que Max aime ça écrire. Puis, d'un côté, Max me dit mes erreurs de dessin, puis de l'autre côté, moi, je l'aide à, comment dire, c'est quoi, élaguer, là, ton...
Ben, ça serait le fun que les bulles soient pas trop grosses, que ça cache tout le dessin en arrière, disons.
Parce que ça, je trouve, il y a bien des bandes dessinées qui ont un problème où c'est que les gens ont tendance à trop parler. Il y a trop de dialogues rentrés, puis on voit comme juste les têtes coincées en bas à gauche.
Ouais, fait que vous
J'essaie
essayez.
toujours, comme ils disent, c'est toi qui dis en anglais, Gravity is the soul of wit. Bon, ça se dit comment en français, ça?
Je suis pas capable de le traduire, mais c'est pas juste le texte de la BD, il y a aussi les articles que habituellement j'écris en bas de chaque BD. Geoff le fait une couple de fois quand je manque de temps ou quand il est plus inspiré que moi sur certains sujets. Mais habituellement, c'est ça. Très bon correcteur de texte, Geoff.
Ah, ben merci, c'est
Tu
gentil.
bottes les fesses à antidote.
Arrête, on va finir avec une poursuite dans le derrière, là.
Et Katida. Moi, ils sont Québécois en plus, peut-être qu'ils vous
Ben,
écoutent.
justement.
Non, mais c'est bien quand même. C'est ça que je trouve le fun de vos BD, c'est que ça a rapport avec comme l'actualité de la semaine ou quelque chose qui est sorti dernièrement ou des choses comme ça. Fait que c'est le fun, le texte qui va avec aussi. C'est vrai que la bande dessinée a une bulle, mais le texte en dessous est beaucoup plus élaboré que ça. Fait que c'est intéressant parce que t'as un dessin que tu regardes, une bande dessinée que tu regardes, puis ça, t'as du contenu plus informatif en dessous. Fait que je trouve que c'est un bon mix des deux. Ça plaît aux gens qui aiment regarder une bande dessinée, puis aux gens qui aiment ça avoir un peu de détails sur l'actualité du jeu vidéo ou geek un peu autre, là.
Oh ben, merci. On aime essayer d'offrir de quoi pour tous les types de personnes.
Ouais, non, je trouve ça bien intéressant. C'est quoi votre processus de création? Bon, on a une histoire en tête, puis après ça, on fait des dessins alentour de ça, ou des fois, tu vas gribouiller un dessin, puis tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça?
Ça dépend de l'idée, parce qu'il y a des fois que une idée démarre parce que GF peut dessiner quelque chose qu'il trouve vraiment niaiseux. Puis après ça, on dit comment qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait construire comme joke autour de ça? Mais très souvent aussi, c'est qu'il y a un sujet qui nous accroche, qui nous tape ses nerfs ou quelque chose qu'on veut parler. Et là, après ça, on construit une BD sur ce sujet-là ou sur quelque chose qu'on trouve qui n'est pas correct ou qui fait pas comme il faut. Puis il y a bien des fois qu'on habite proche d'un métro, fait qu'on marche vers le métro le matin des fois, puis en se rendant là pour aller travailler, puisqu'on travaille quand même pas trop loin un de l'autre aussi. Fait qu'on prend le métro ensemble, puis dans le métro, on discute, puis on parle des sujets qui sont arrivés récemment dans les actualités techno. Puis tranquillement, pas vite, en jasant, il y a comme une idée qui se développe. Des fois, complètement par accident. Bon, il y a des fois qu'on jase, puis tout à coup, quelqu'un dit un ou deux d'une niaiserie ou quelque chose qui fait rire l'autre en maudit, puis tout à coup, il y a une idée qui apparaît de nulle part. Mais le problème avec le processus créatif, c'est que c'est pas systématisé. Il y a des fois là que c'est bien dur d'écrire une joke, puis d'autres fois que
Ça sort tout seul.
ça sort tout seul, il n'y a rien à faire, là.
OK.
Mais le trois quarts du temps, on commence avec un sujet qui est d'actualité, on essaie de trouver quelque chose qui nous fait rire.
À
Si
l'entour de
quelque
ce sujet-là.
chose nous fait rire, habituellement, on est capable de construire une joke avec, puis le reste, ça se fait tout seul.
C'est là, vous êtes mis sur les épaules de sortir une BD tous les vendredis à 11 h. Y a-t-il une pression là-dessus? Avez-vous toujours quelque chose? Ça a-t-il déjà arrivé que vous êtes arrivé un vendredi à 9 h du matin et puis il n'y avait rien? Ou c'est vous avez toujours de quoi préparer un peu d'avance puis tout ça, vous êtes.
Je pense que c'est arrivé peut-être deux, trois fois parce qu'on est tombé malade ou qu'il y en a un ou deux qui était pas en condition de sortir une BD ou qu'on était à sec puis que sortir quelque chose de vraiment en poche, ça serait impossible. Fait
Ou qu'on était en semaine de vacances puis on s'est rendu compte vendredi matin que l'idée qu'on avait, elle fonctionnait pas pantoute.
OK.
C'était un petit peu à la
Mais à
course.
date, c'est pas mal rare, là. Je veux dire, il y a une couple de fois que notre contenu n'était pas super bon comparé à la normale, là. Mais ça arrive à tout le monde. Tu peux pas tout faire des home runs à toutes les semaines, hein.
Non, il y a des semaines moins bonnes que d'autres, mais ça, c'est normal, là.
Bon,
Puis,
c'est impossible, là. C'est
mais
impossible.
c'est drôle parce que il y a des idées qu'on se dit, c'est super drôle, on a bien ri, puis on la sort, puis
Ça passe dans le
ça
beurre.
passe dans le beurre au complet. Puis il y en a d'autres qu'on est comme,
C'est tellement mauvais.
oh, c'est mauvais, on va le sortir quand même parce que c'est fait, tu sais, puis ça pogne. On est comme, voyons donc.
Je comprends plus rien.
C'est quoi cette affaire-là?
Des fois, c'est une belle surprise.
Oh non, je dis pas que je suis fâché. Comment osez-vous aimer cette chose-là? Non.
Ah, mais c'est pas ça. C'est plus que l'humour, c'est pas quelque chose de tangible. C'est pas quelque chose qu'on peut.
L'humour, c'est mystifiant.
Ben, c'est ça. Il y a des choses qui auraient aucune manière d'être drôles ou qui méritent pas d'être drôles, puis que ça n'a pas de bon sens, tout le monde est mort
Dans
de
la
rire.
bonne situation, le bon ton de voix, encore, c'est très, très. C'est pas encore. Il n'y a pas encore une percée scientifique reliée à ça.
Non, mais tu vas mettre 50 personnes dans une pièce, puis il va y en avoir 20 qui vont trouver une joke drôle, puis 30 une autre, puis c'est pas nécessairement tout compatible.
Deux personnes qui vont t'envoyer chier.
Non,
Ouais.
ça aussi.
Mais non, honnêtement, je pense pas que c'est pas vraiment arrivé. Parce qu'habituellement, si jeudi, on n'a toujours pas un esquisse ou quelque chose de prêt, là ça commence à sentir le brûlé, puis on va en mode turbo, là. Il faut trouver quelque chose, puis on se couchera pas avant de le retrouver, là.
Ouais, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on fait le nécessaire pour pas se retrouver avec les mains vides un vendredi. Ben, c'est
Ok.
ça.
Ouais, parce que les gens attendent votre BD.
Ouais, mais c'est drôle parce qu'il y a des fois que à cause de trucs hors de notre contrôle, on peut pas la sortir exactement à 11 h. Puis il y a du monde sur Twitter qui disent, ouais,
prenez votre temps, ou je sais pas, des choses de même. Puis là, je dis, bon, ben, on nous watch.
Ouais, t'es en vacances, quoi? Ouais,
sauvez.
On vous check. Check vos moindres mouvements.
Ben, je trouve ça le fun quand même que le monde, ils attendent qu'on sorte la BD des fois, mais il y a d'autres fois, je me dis, ben, en tout cas, quand le monde chiale, peut-être qu'il y en a certains qui sont négatifs, c'est parce qu'ils comprennent pas que c'est le genre de choses qui prend. Ça prend des heures à faire, puis c'est ce qu'on sent en 30 secondes.
Non, ouais. C'est clair. C'est clair.
C'est comme, ça veut rendre 2-3 heures, la personne va sur le site, 15 secondes plus tard, ok, t'es la next website.
Elle est partie. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est un fait. C'est quelque chose que les gens comprennent pas nécessairement le processus. Ben, ils comprennent le processus en arrêt de ça, mais ils comprennent pas nécessairement le temps mis. C'est pas tout le monde non plus. Mais ils comprennent pas que, tu sais, faire une bande dessinée comme ça, ça peut prendre, tu sais, une couple de jours, ça peut prendre, tu sais, ou des heures, ou, tu sais.
Ouais, ben, regarde, c'est plus les gens qui font des BD style comic book que je trouve qui ont la vie la plus dure pour ça. Parce que, tu sais, nous autres, nos BD, ça peut prendre entre 1 heure à 4 heures. Ça dépend. La majorité des BD prennent 2 heures, 3 heures à faire. Okay. Ben, 3 à 4 heures pour la partie artistique, puis peut-être 1 heure ou 2 de brainstorm puis d'écriture. C'est pas le contenu le plus long à faire, disons. Les gros contenus qui nous font un peu plus suer, c'est comme les BD vidéo, puis les critiques turbo, puis les trucs comme ça. Puis les gardes du podcast, là. Oh mon Dieu, oui.
Ouais, ça commence, c'est sûr que ça commence à être un petit peu plus d'ouvrage, parce que là, de l'animation, il faut suivre avec synchro, avec de la voix, puis il faut que ça matche, puis le kit, là, c'est du montage.
On n'utilise pas de technique de flash non plus, ça veut dire que c'est image par image.
Puis aussi, c'est le seul contenu que moi, quand je fais la BD, toi, tu fais le texte, mais tu sais, quand on fait la BD vidéo ou les critiques sur beau, les trucs comme ça, c'est moi qui fais les dessins. Puis qu'il enregistre les voix avec Max, puis après ça, c'est Max qui fait le montage vidéo aussi et audio. C'est ça, fait que là, c'est comme une deuxième personne impliquée dans le processus directement pour le produit fini.
OK, ça commence à être plus d'ouvrage. Fait que non, c'est pas mal de travail, puis c'est réussi pour en avoir regardé pas mal. Je veux dire, c'est toujours intéressant, c'est toujours drôle à regarder. Puis je trouvais ça plate à un moment donné au bureau, sur mes heures de dîner, j'allais souvent sur votre site, puis à un moment donné, ça a été bloqué dans le proxy.
Ils ont bloqué notre site dans le proxy?
Eh oui, puis après ça, là, c'est revenu. Fait que là, je me dis, ah, ok, de temps en temps, je peux y aller. Mais à un moment donné, vous étiez bloqué dans le proxy.
Ça prend ça comme une badge de fierté.
Ben oui, prenez ça, vous avez été remarqué.
Un proxy de contenu, ça veut dire qu'on est apparu sur des radars.
Là. C'est ça. Mais là c'est, ça a comme été réglé. Je sais pas si on resetait proxy ou quelque chose comme ça, là, mais il y a une couple de sites que j'étais plus capable d'aller. Puis là, présentement, c'est sur mes heures de dîner, je suis capable d'y aller. Fait qu'on va se croiser les doigts. Si on avance un peu, parce que je pense qu'on pourrait passer le show là-dessus, vous avez aussi un podcast, le podcast des jumeaux Techno et Steve.
Si on peut appeler ça un podcast, c'est plus comme une heure et quart d'impertinence. C'est dur à décrire, c'est plus comme...
C'est comme un carambolage,
pareil. C'est un accident slow motion. Il n'y a pas vraiment de plan, on a certaines idées, on a des nouvelles qu'on prend en note dans un document Google, puis le restant, c'est juste nous autres qui jasent.
Okay.
D'autres insanités qui rentrent dans notre tête pour une raison ou une autre.
Ok, non, mais ça reste intéressant pareil. Le podcast est venu après les BD, j'imagine?
Oui, c'est comme un an ou deux plus tard, quand on pensait faire un podcast, puis on disait on peut pas juste faire ça, moi puis Max, parce que ça va. Il nous manquait comme une autre
personne. Ben, on l'avait essayé, on avait fait une couple d'enregistrements de test tout seul, puis c'était pas écoutable.
Ok.
Non, ça marchait juste pas. Fait que là, on a dit, on va essayer si on invite nos amis. Fait que la première personne qu'on a fait le test avec, c'était Steve. Puis là, on s'est comme aperçu qu'il y avait comme une dynamique entre nous trois, puis que ça alimentait la conversation, puis qui.
C'est ça, parce que nous autres, moi et Max, on est souvent d'accord sur bien des sujets. Fait que si on comprend bien le truc pour attirer l'intérêt des gens, c'est qu'il y a un peu de conflit. Fait que notre ami Steve, il est comme un petit peu l'inverse de nous dans certaines choses, comme par exemple, il est pas mal plus sportif que nous, il a un intérêt un peu plus dans les jeux de sport, des trucs comme ça.
Okay.
Il aime plus les comic books que nous autres en tant que tels. Puis il a comme un intérêt presque encyclopédique des films, des vieux films d'horreur. Fait qu'on a comme trouvé un certain complément avec lui quand on a commencé à faire des discussions, puis on trouvait que ça roulait bien. Puis après ça, quand on a commencé à faire une couple d'épisodes avec lui, puis on voyait que ça roulait bien, on a demandé à un autre de nos amis de très longue date aussi, notre ami John, de se joindre à nous dans certains épisodes quand le temps permettait.
Ouais, quand il y a le temps, parce que
c'est un père de famille à s'occuper. Fait que quand il était là, c'est drôle parce que on comparait ça à sais, liquide explosif dans Die Hard 3, là.
Ouais.
T'sais, comme il y en a un, c'est le liquide rouge, puis l'autre, c'est le liquide blanc. Les deux sont quand même inertes, séparés. Mais t'es mis ensemble, puis ben,
Ça
ça finit.
pète.
Ça pète,
Ce que
ouais.
j'avais dit quand on les avait présentés, c'est le Nexus, ça devient le Nexus de l'imbécilité, genre.
Ouais.
Donc, ça venait vraiment, vraiment niaiseux, mais ça nous faisait rire, pas sans bon sens. Fait qu'on a dit, si nous on trouve ça drôle, ces conversations-là sont comiques, puis tu sais, c'est comme, on se prend absolument pas au sérieux, puis si nous autres on trouve ça drôle, il y a probablement quelqu'un quelque part qui va trouver ça drôle.
Ouais,
Fait
c'est
qu'on a
ça.
lancé ça dans le virtuel, puis ça a fait le
Ouais,
reste.
puis c'est là qu'on a commencé à expérimenter avec les shows live. Ça a été quand on a commencé à diffuser notre podcast en audio sur Justin TV. Non, c'était pas ça, c'était
C'est quoi l'autre?
l'autre site de
C'était
Ustream, c'est
ouais,
ça.
Ustream, c'est ça.
Ustream.
Nos premiers podcasts, après comme 4-5 podcasts, on a commencé à le diffuser en direct, l'audio sur Ustream. Puis après un certain moment, on trouvait que c'était pas pire. Le monde venait nous écouter live, puis on pouvait interagir avec le monde. On s'est dit, on va l'essayer en vidéo. Là, ça a été, comment dire, le squelette qui nous a inspiré plus tard dans l'histoire de créer Jumeaux Techno TV, qui est notre émission live de gaming qu'on fait
C'est
sur.
ça, c'est un peu ça qui est parti de base, disons.
Ouais.
Jumeaux Techno TV qui est quand même intéressant parce que là, vous jouez à des jeux, vous invitez souvent, t'sais, d'autres gens. Il y a comme Ian Richards est allé, il y a plein de monde qui sont allés jouer des jeux avec vous autres. C'est quoi? C'est juste un trip, vous décidez de jouer à un jeu, vous asseyez, puis le monde vous regarde jouer finalement?
Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand nous autres, on a un jeu qui nous intéresse, qu'on dit qu'il me semble que ce serait bon de le montrer aux gens, on le fait nous deux. Puis des fois, c'est juste un ou deux qui fait le show aussi. Des fois, on part, des fois, c'est des coups de tête. C'est jamais vraiment comme avec un horaire précis, à part quand on a fait un exercice pratique l'année dernière, où c'est qu'on a essayé d'en faire un à tous les jours.
On avait duré 3 mois, je pense,
Ok, c'est
à cette vitesse-là. C'est
comment
que
ça du
c'est.
stock?
On a pété aux frettes après.
C'est
Ça a tué la motivation.
ouais, ben c'est parce que le monde pense que streamer live là, des jeux vidéo, que c'est juste tu t'assieds, tu payes sur Python puis tu joues. Mais c'est assez demandant, on le voit pas là, mais de jouer à un jeu puis d'interagir avec le monde en même temps puis de faire ça jour après jour puis trouver tout le temps un jeu à jouer.
Puis garder un œil sur le chat ou s'arranger que la carte de capture elle pogne actuellement, qu'est-ce que tu fais, puis qu'elle ne pogne
Ben,
pas en plein milieu.
ouais. C'est beaucoup de bandes passantes, c'est beaucoup de préparation. Puis on s'en est aperçu quand on l'a fait 5 jours/semaine pendant 3 mois que c'était pas aussi facile qu'on pensait.
C'était too much.
C'était le fun. Mais y avait-tu un bon following ou pas? C'était-tu pas pire? Au moins, ça
On
valait-tu
avait
la
accueilli quand
peine?
même, on a rendu vers la fin, on avait quand même pas mal gang de monde qui nous suivait, là, mais c'était juste. C'était pas un rythme qu'on pouvait vraiment soutenir à long terme. Fait qu'on a dit, on est content d'avoir fait le test, voir si on était capable. Puis ça nous a appris beaucoup de choses sur comment faire le show. Ça nous a aidé dans le futur, mais en ce qui concerne l'horaire fixe, ça marchait
Non,
pas.
c'est ça. C'est quelque chose maintenant qu'on fait quand ça nous tente, puis quand on a l'opportunité, soit d'inviter nos amis ou des amis sur Twitter ou de le faire nous-mêmes ou tout seul, puis le monde vient voir si ça leur tente. Puis des fois, on le fait improviser sans aucun avertissement, puis le monde embarque quand même. Juste qu'il faut garder un œil sur Twitter,
Hey
puis
Max, tu sais, je viens de penser à ça, tu sais qui serait un bon invité pour un autre épisode de JTTV? Tu connais-tu Luc Desormeaux?
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, il est bien bon, il faudrait peut-être lui lancer la perche pour une émission dans le futur.
Lancer la
Comment qu'est-ce
perche
que
avec
tu
un
vas
gros hameçon.
faire? Ouais, ça manque d'utilité, mais c'est efficace.
Ouais, non, c'est envoyez un message, je suis sûr qu'il va vous répondre à un moment donné.
Ok,
Je vais y
bon,
envoyer un DM sur Twitter, je suis
ouais,
sûr.
ça, j'entends dire qu'il était un peu airbite des fois, puis c'était pas vraiment un bon gars, là, mais peut-être qu'il va vous dire oui, je sais pas.
Au pire aller, s'il nous bloque, ben tant pis.
C'est ça. Vous avez été bloqué. Non, mais c'est vrai, Twitter t'avertit même pas dans ce temps-là. Je pense que c'est juste que t'es pas capable d'envoyer de DM. Je sais pas comment ça marche. À date, j'espère, je me suis pas fait bloquer, puis non, vous êtes pas obligé d'essayer. Donc, si on va avec bon, vous avez une passion pour le dessin, vous avez une passion pour l'écriture, vous avez une passion pour le jeu vidéo, parce qu'on s'entend, la majeure partie de votre contenu vient de l'inspiration du monde du jeu vidéo. Vous avez commencé quand à jouer ça? Comment est-ce que le jeu vidéo est arrivé dans votre vie?
Oh
Elle
boy.
est pas me dire que c'était dans la poche ensemble, vous aviez un Game Boy, là. C'est comment ça. Puis ça a créé déjà des taloches.
Ouais,
à savoir qu'est-ce qu'elle a
ça
joué
a
à
presque
Tetris.
tué notre mère.
Ouais. Surtout
Presque.
que le Game Boy n'existait pas dans le temps.
Non, c'est ça.
Donc, on est né en 85, alors on a les deux 29 ans en ce moment. Et je dis on a les deux comme si c'était quelque chose qui était variable. Non.
Ouais, c'est ça.
Ça, je l'entends souvent, cette joke-là.
Peut-être à
Hey,
la
t'as su à
minute
la fête de
près.
ton frère?
Eh, bonne, je l'ai jamais entendu. C'est
Ouais.
ça. Mais c'est ça. Il y a peut-être une minute de différence, mais à part de ça.
Présentement, oui, à cause que
C'est une
c'est
césarienne.
ça. Fait
Ok,
que
ouais, c'est ça.
plus vieux de par une minute. Wouhou.
Fait que c'est
Nice.
toi le frère aîné.
Ça fait toute la différence,
C'est,
Crémoune.
je suis certain, une minute plus mature. Donc.
Ben, il est un pouce plus grand que moi, puis 20 livres de plus.
Ah, ouais, mais ça,
Ça
c'est
fait une
peut-être.
différence, une minute, hein?
Le 20 livres, c'est peut-être plus du McDo ou quelque chose d'autre, mais on rentrera pas là-dedans.
Non, s'il vous plaît. Non.
Donc, c'est ça, si on voit votre histoire de gaming, comment ça a commencé, comment vous avez été initié à ça? Avez-vous des parents gamers ou c'était même pas?
Non, pas vraiment. C'est plus le fait qu'on a reçu un cadeau. Ben,
c'était mon plus vieux souvenir, oui.
Ben, mon plus vieux souvenir, c'était même pas ça. C'était avant même. C'était notre grand-mère, elle était fan de jeux vidéo. C'était elle qui avait acheté un Atari dans le temps,
Ok,
quand on était jeune.
quand même rare.
Ouais, ben c'est ça. Mais je me rappelle d'un jeu de course sur l'Atari, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, là. Mais c'était. Oh, parce que les graphiques, c'était Atari, là. Puis
Ouais, c'était des boîtes de couleurs différentes.
Ouais, ben c'est ça. Fait que là, juste pas que tu rentres des autres boîtes, des autres couleurs, sans t'avoir une belle explosion carrée. Mais anyway, ben, fait que là, ça, c'était mon premier contact avec les jeux vidéo, c'était l'Atari. Puis après ça, je me rappelle, nos parents nous avaient acheté une Sega Genesis en
Non,
premier.
c'était le Nintendo.
C'était le Nintendo?
Je me rappelle, c'était notre père, à un moment donné, pour Noël, nous avait acheté une Nintendo. Puis on me rappelle, un matin, on jouait à Mario Bros, là, le premier, là, puis on avait tellement de misère à jouer initialement, ça nous frustrait tellement. Moi, je me rappelle, je mordais ma manette. Il y avait des traces dedans, sa Il y avait
manette.
des traces dedans dessus, là.
Ok.
C'était. Je peux dire au moins, très bonne nouvelle, on le fait plus maintenant. Non, c'était toi, Jeff, qui mordais ta manette.
Mais les manettes sont quand même un petit peu plus
Jeff.
grosses aujourd'hui, ça pourrait être un petit peu plus difficile peut-être.
Ouais, sont faites un peu plus. Ben non, attends, il était fait tough quand même, les manettes.
Ouais, mais
Ouais,
il était mince.
il y avait des angles pointus aussi. Moi, j'ai mangé, puis Max s'est lancé. Fait que c'est. Ouais, mais notre premier jeu, ou quand on avait les appeler quand on était jeune, notre première cassette, ça a été la cassette combo Mario Duck Hunt. On avait le gun rouge, là. On tirait les canards sur l'écran. On était tout émerveillés à la technologie. Là.
Ben, mais c'était quand même hot pour le temps,
Ah
je
non, mais c'était très le fun. C'est certain, on ne pouvait plus arrêter de jouer. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Et là, après ça, on a eu je me rappelle plus combien d'années plus tard, mais on a eu après la Sega,
Ouais.
avec Sonic, le premier Sonic.
Oh, Dieu, ce jeu-là.
On a joué beaucoup
On
à ce
l'avait
jeu.
jamais capable de le finir.
Non, les premiers jeux qu'on a joués, on les finissait pas.
Vous parlez de la Sega, c'était-tu la Sega Master System ou la
Non,
Sega
la
Genesis?
Sega Genesis.
Ok.
Ouais, non, on n'a pas eu la chance d'avoir la Sega Master System.
Ouais.
Mais non, les premiers jeux, c'était ça, c'était
Puis
Sonic.
je sais aussi qu'on avait eu un Power Glove dans ce temps-là.
Ah oui, c'est vrai, on avait trouvé ça à un pawn shop. Ben, notre mère avait trouvé ça à un pawn shop. Ben, disons, ça va être hot, un Power Glove. Tu peux contrôler le. Tu peux faire comme si t'étais dans le jeu, tu sais, tu mets le gant, puis là tu le tiens comme un volant, comme si tu tenais un volant invisible dans un jeu de course, là. Tu tournais la main, puis le volant il tournait, puis ton char il allait dans la direction comme si tu tournais le volant. Mais c'était ça en pratique. En vrai, c'était pas vraiment ça qui arrivait.
Dans
Parce
le
que je sais
rêve
pas
des
si.
ingénieurs, c'était ça.
Ben c'est ça, je sais pas si les gens qui écoutent ont déjà vu un Power Glove, à part parce que c'était pas juste le gant. Il y avait aussi un kit de capteurs
À
que
la
tu
style
mets.
Wii.
C'est ça. C'était comme le prédécesseur de la Wii que tu mettais sur le top de ta TV. Qui était supposé capter où ce que le Power Glove était comparé à la TV, puis essayer de te donner une idée générale de. Tu sais, quand tu bouges.
De
Ouais.
l'espace, ouais.
Ça marchait vraiment pas bien. Là.
Moi, je me rappelle clairement essayer de m'en servir pour jouer à Punch-Out, puis même pas être capable de knock-out Glass Joe.
Ouais.
qui peut
dire. Il faut le faire.
Ce qui est vraiment craché sur une technologie. parce que...
Ouais, pas mal, ouais, mais ouais. Ça me rend triste parce que on sait qu'il y a quelque part, soit dans notre appart ou chez notre mère, là, puis j'aimerais le retrouver parce que c'est rendu presque une icône du gaming, c'est un maudit gant-là. Du film Wizard. Ouais.
Ouais, c'est un peu l'apothéose de l'inutilité d'un gadget, là, mais oui. C'est c'était cool pareil pour le temps.
Non, c'est plus rendu un accessoire de mode maintenant. Ça, puis le Power Glove, là, t'as l'air vraiment années 80. Là.
Ouais, c'est sûr. Sortir en boîte le samedi soir avec ton Power Glove, c'est toujours un gage de succès.
Il y a peut-être, s'il y a une personne dans tout le club qui le comprend, là, t'es bien heureux. Ouais, t'es prêt pour faire un high five avec aussi.
Ouais, peut-être. Fait que Power Gloves, ça c'était NES. Genesis, vous avez joué au Genesis. Y a-tu des jeux là-dessus qui vous ont marqué? Vous avez dit que vous avez joué à Mario sur la NES.
La Genesis, il y avait un jeu que je me rappelle encore assez clairement.
C'est Toe Jam
and
Earl.
Ouais, Toe Jam and Earl.
Ouais, je savais que t'allais dire ça.
Ça jouait à deux, ça, si je me rappelle bien.
Ouais, c'était un des premiers jeux coop qu'on a joué ensemble. Puis on comprenait pas comment jouer, là. C'était incompréhensible, Toe Jam and Earl, quand on était plus jeune, là. C'était
comme un trip de lesbienne.
Ouais, mais c'était presque ça, là.
Ok, ouais. Ça me dit absolument rien, ce jeu-là.
Non, bon, c'était deux aliens qui débarquaient sur une planète, puis que leur vaisseau sautait, puis là, qu'ils trouvaient les pièces, puis les remettent ensemble. Puis c'était vraiment ridicule, parce que les aliens, là, ils étaient habillés comme des gangsters des années 90, là.
Ok.
Des rappeurs, genre, un petit peu. Puis là, ils se promenaient, là, puis t'entendais une musique de beatbox dans le background, là, puis...
Tu checkeras sur YouTube après le show, ça vaut la peine.
Ouais, j'irai faire un tour.
Toe Jam and Earl.
Ok. Yes. Allez voir ça quand on aura fini.
Sinon, quelle autre affaire qu'il y avait aussi?
Ben, il y avait Sonic, il y avait aussi. C'était quoi déjà?
Le premier Super Mario sur la Super Nintendo quand on a finalement eu la console.
Ben, Super Mario World. Oh, mon sur Dieu. La Super Nintendo, Pilot Wings. Le jeu là, parce que tu joues ben, pas un dinosaure, mais tu joues comme un.
Mais j'ai la chanson de Pilot Wing poignée dans la tête là, maintenant là, à cause de toi là.
Oh mon Dieu, non, c'est.
Quoi, tu veux pas que je la chante?
Non.
Ok, laisse faire.
Non, mais j'ai entendu un gémissement de d'horreur, genre quand t'as dit Pilot Wing, ça a-tu été quelque chose de marquant?
Parce que ce jeu-là, je veux dire, c'était un jeu le fun, mais maudit qui m'a fait chier là.
Okay.
J'ai jamais atterri. Surtout la partie. Attends, c'était quoi déjà qui m'a fait vraiment chier? C'était la partie de l'avion, parce que tu peux piloter un avion, il fallait qu'il passe à l'intérieur d'un certain cercle dans les airs. Là. Mm-hmm. les dernières missions étaient vraiment difficiles, fait que t'avais tendance à rater un ring vers la fin, fait que t'en commences au début. Parce que tu voulais avoir le meilleur score possible. T'sais.
Puis l'instructeur, il se moquait de toi après, là, tu manquais ta shot. Fait que c'est comme. On a appris l'anglais avec les jeux vidéo, puis la télévision quand on était plus jeune, puis. À commencer à comprendre un peu qu'est-ce que les mots insultants disaient, là, c'était une découverte.
Ben, ouais. C'est drôle à dire, mais les jeux vidéo, ça a été une de nos motivations principales pour apprendre l'anglais quand on était jeunes. Puis ça a été, comment dire, le meilleur prof d'anglais qu'on a jamais eu.
Ben ça, puis les sitcoms en anglais à la TV.
Ouais.
On mettait les closed captioning,
les sous-titres.
Puis on écoutait ça en même temps, fait qu'on voyait les mots passer, puis on voyait qu'est-ce qu'ils disaient, puis tranquillement, pas vite, on a commencé à mieux comprendre.
Mais surtout pour comprendre les jeux vidéo.
Ouais, c'est sûr.
Je me rappelle des jeux d'aventure puis de recherche sur la Nintendo, Uninvited, Shadowgate et Déjà Vu. Mm-hmm. Trois jeux de recherche qui se ressemblent pas mal, je sais pas si ça dit quelque chose.
Ouais.
Puis là, on voulait résoudre ces jeux-là, mais on avait de la misère à comprendre l'anglais dans le temps, fait que là, on était un petit peu mélangés. Mais je me rappelle que, c'était pas déjà vu, c'était
Uninvited,
ce jeu-là m'avait foutu la trouille quand j'étais jeune, là.
Fille avec la tête de squelette.
C'est ça, Uninvited, là, tu joues quelqu'un qui fait un accident de char avec sa sœur, puis sa sœur disparaît dans une maison hantée, puis là, tu sors de là, puis tu t'en vas dans la maison hantée, puis que tu la retrouves. Puis il y a un certain couloir où ce que tu vois, il y a une belle dame de dos qui marche dans le couloir. Et si t'as le malheur d'y toucher ou d'aller y parler, elle se tourne de bord, puis elle a pas de peau.
OK.
Un squelette. Puis là, t'as une musique sinistre qui joue, là.
Ah, puis... bit, là mais...
Ouais, c'est... En tout cas, ça m'a traumatisé, là.
OK. Ouais. Ça serait probablement moins impressionnant aujourd'hui, mais j'imagine que dans le temps, ouais, on se contentait de peu.
C'est le sens de la jeunesse à avoir peur pour rien.
Ben, l'imagination.
Ouais.
Attends, sur Sega, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je sais qu'il y a un jeu de guerre où ce que tu bougeais des soldats sur une carte là, puis c'était fait en cartoon, je me rappelle plus du nom.
Moi non plus. Mais je sais de quoi tu parles, mais je me rappelle pas ce que tu dis.
Non, moi non plus.
Il y avait aussi l'affaire de course sur les petites voitures qui se promenaient sur des affaires de Cheerios.
Les Micro Machines.
Ah oh, oui, Micro Machines.
Ok.
C'était Super Nintendo, ça aussi, on a beaucoup joué à ça. Là, puis...
Ouais, puis il y avait aussi. C'est là que notre obsession avec les jeux de combat commençait. C'était sur la Super Nintendo quand on a eu le premier Mortal Kombat.
Oui.
On l'avait vu à l'arcade, là, puis on trippait bien fort, mais on n'était pas super riches quand on était jeunes, fait que les jouets à l'arcade, c'était très rare. Fait que là, on est capable de louer le jeu à un club vidéo sur Super Nintendo, puis on a commencé à jouer à ça. Là. Jeff était Scorpion, puis moi j'étais Sub-Zero tout le temps.
Puis t'aimais ça rentrer ton poing à l'intérieur de quelqu'un, puis le voir suer.
Ouais, ben c'est ça. Mais c'était plus de pouvoir. C'était comme un jeu compétitif, comment dire, de être capable d'être meilleur que l'autre.
C'était le début d'une rivalité dans les jeux de combat qui dure à ce jour.
Ok. Ah, bon, c'est bon.
Depuis ce temps-là, c'est toujours Max qui a l'avantage.
Ouais, à date, c'est tout le temps moi.
Je suis pas capable de gagner.
Ah,
c'est... Ou une étape en avant de moi. C'est comme s'il disait dans mes pensées, « Hey! »
Sors de là.
Non, ben, c'est ça, c'est que là, tous les jeux de combat, là, Super Nintendo, là, Killer Instinct, Street Fighter, Mortal Kombat,
Soul Calibur maintenant, plus récemment, puis encore plus récemment, les Street Fighter 4. Là.
Ouais. Mm.
Ouais, mais sur la Super Nintendo, il y en avait eu pas mal, parce que c'est ça, Street Fighter, Mortal Kombat, puis tout ça, ça avait tout sorti là en premier, puis c'était...
Oh, en tout cas, tout le plein de jeux différents de Street Fighter.
Si on parle de souvenirs de gaming, s'il y a des affaires qui me rappellent des très bons souvenirs, c'est les soirées qu'on allait chez notre grand-mère jouer au Super Nintendo. Parce qu'elle, elle avait des jeux, elle jouait à des jeux comme Tetris, Dr. Mario, des trucs comme ça.
Ok.
Tranquillement pas vite parce que c'était on n'était pas les seuls gamers dans la famille, c'était notre grand-mère qui jouait à des jeux. Puis elle, éventuellement, elle a acheté elle avait un PlayStation, elle a même eu une 3DO aussi.
La fameuse console qui coûtait 700$ puis que personne connaissait.
C'est dans un futur alternatif, là, ça aurait été la 3DO 4 qu'on aurait eu en ce moment.
Ok, enfin, ouais, c'est ça.
C'était Panasonic console contre Sony.
J'ai quasiment le goût de lâcher Jumeau Techno puis d'appeler la grand-mère Techno. Là. Vous pourrez, tu sais, à un moment donné, avec gamer de même, c'est presque bizarre.
Sa série favorite, c'était les Tomb Raider, elle les avait toutes.
Ouais, okay. parce que quand on était jeunes, on était, disons, elle était un petit peu plus financièrement stable que nous autres, ce qui veut dire qu'on a eu accès à plusieurs jeux qu'on n'aurait pas pu avoir si ça n'aurait pas été d'elle, si elle les avait achetés.
Okay.
La 3DO avec des jeux comme Alone in the Dark, le fameux Night Trap, Sewer Shark, tu sais, les jeux en film, là.
Oh, ouais.
C'était tout le gros trip des années 90, là. Il dit, on est sur des CD maintenant, on a assez de place pour mettre du vidéo. Fait qu'on va s'en servir pour mettre des acteurs. C'est comme si tu jouais un film.
Ouais, oh, ouais, ça a été le gros mode.
Ça a pas marché aussi bien qu'il pensait, là.
On a encore les jeux de 3DO qu'on a, parce qu'elle nous l'a donné, la console, là. C'est juste que c'est plus calé.
On a encore les jeux, mais on n'a plus la console, on la trouve plus.
Hein? Ok, moi, ouais, c'est pas pratique, mais.
Ça aide pas.
Mais c'est cool pareil, je veux dire, gamer solide, là.
Ouais. Ouais, mais là, présentement, elle a une Wii. Puis on essaie de la convaincre de s'acheter une Wii U, mais là, présentement, elle est trop rendue accro à...
Animal Crossing.
Animal Crossing.
OK, ben regarde, je veux dire, c'est capoté pareil, elle joue encore. C'est vraiment hot, là.
Passion, côté gaming, là, c'est une de nos inspirations.
Ouais, je me rappelle quand elle avait acheté le premier Resident Evil.
Non, c'était le 2.
Non, le deuxième, elle avait acheté Resident Evil 2. Elle essayait de jouer, mais bon, c'était pas son genre de jeu, fait que ça allait pas.
Elle avait un peu de misère, mais c'était drôle parce que des fois, dans ce temps-là, des fois, pour aller tenir compagnie, j'allais coucher chez elle. Puis la nuit, des fois, je me réveillais en plein milieu de la nuit parce que j'entendais des bruits de zombies qui venaient du salon. Des coups de feu. Puis je me disais, elle est rendue à tel endroit dans le jeu. Tu sais, à tel point que j'étais bon dans ce jeu-là, je savais dire non, ce qui était. N'empêche que c'est des bons souvenirs, puis. Je suis content de voir que même à quoi 78 ans, elle joue encore.
Ouais, c'est solide. C'est chapeau grand amateur techno. Là.
On va lui passer le message.
Je trouve ça vraiment hot que t'sais, déjà t'sais, que vous ayez une grand-mère qui gamait puis qu'aujourd'hui, elle approche 80 ans puis elle game encore. Là, c'est comme. Ouais. C'est vraiment hot. Je suis vraiment chapeau.
Toi, puis, de ton côté, t'as-tu de la famille dans cette orientation-là qui joue à des jeux?
Zéro Eckenbach.
Ok.
J'étais le gamer de la famille.
Ok, fait qu'il y avait personne d'autre dans ta famille qui jouait à des jeux?
Non. J'étais le seul avec une console. Pas de cousin qui jouait, pas de parents qui jouaient. C'est vraiment rien. Puis, anecdote, là, j'ai eu une NES à Noël une année avec le robot puis toute la patente. Là.
Oh my God!
Puis, je l'avais trouvé en fouillant pour des cadeaux. Je ne me rappelle pas quel âge j'avais, là, mais j'avais fouillé en dessous de... En dessous du on avait des escaliers pour aller au deuxième étage, puis mes parents cachaient toujours les cadeaux là. Fait que la première année, t'es cherche ben gros, puis la deuxième année, ben, tu sais où ce qu'ils sont. parce qu'ils cachent toujours ça là. Puis j'avais trouvé la NES, fait que je l'avais ouvert, je l'avais installé, j'avais joué toute la journée parce que j'étais seul à la maison. Puis le soir, j'avais tout remballé ça. Puis quand j'avais déballé ça à Noël, j'avais sorti la console, puis je sortais les affaires, puis là, ah, merci, c'est super le fun, je suis super surpris, puis tout. Puis là, ma mère, elle regardait les manettes, elle dit, coutons, elle dit, les fils sont donc bien mal rattachés ensemble, ils ont fait une job pourrie, peu importe ce qu'ils ont fait ça, de remettre les fils ensemble. Je dis, ouais, mais c'est pas grave, là, c'est pas des fils, c'est juste correct, des fils.
Ramène-le pas au magasin.
C'est ça, là, j'étais là, hop, presque, je me suis presque fait avoir.
Tu viens de nous faire penser à quelque chose au niveau de Noël, là. J'ai une mémoire assez claire d'un de mes jeux favoris de Super Nintendo, parce que j'ai passé des heures innombrables sur ce jeu-là, Mario Paint.
Oh mon Dieu!
Tu sais, c'est un jeu de Super Nintendo qui venait avec une souris Super Nintendo, puis un genre de tapis à souris rigide. Là,
ben ouais.
Tu pouvais dessiner dessus. C'était comme Paint, mais sur Super Nintendo.
Oh, mon
Dieu. Puis tu peux aussi faire de la musique là-dessus, puis c'était tous les personnages de Mario. Là.
Ça devait pas être super précis. C'était pas
Non, c'était pas super précis, mais il y a du monde qui ont fait des affaires de fou. Là. Je me rappelle dans le temps, là. C'était Nintendo Power. Il demandait si tu voulais envoyer. Il y avait un concours de dessin pour Mario Paint. Puis la manière que tu faisais pour envoyer une soumission, c'est que tu prenais ton enregistreuse à cassette. Là,
Ton VHS ou ton bêta.
C'est ça, ton VHS. Tu le branchais dans un certain kit, d'une certaine manière, pour qu'il enregistre ta Super Nintendo. Puis là, tu faisais tu l'enregistrais pendant 10 secondes, ton dessin. Puis là, tu chipais la cassette à Nintendo Power.
OK.
Puis le gagnant recevait quelque chose, mais juste la méthode là pour envoyer un dessin.
C'était pareil aussi pour les high scores.
Les high scores, c'était des photos. C'est pas une photo de ton écran d'une certaine manière pour pas que le reflet cache tout. Là.
Ouais.
Tu voyais ton high score.
Ouais, je me rappelle avoir fait ça. Ouais,
Mario Paint, là, honnêtement, là, c'était comme le précurseur de Paint. Puis mon obsession avec les ordinateurs, ça avait commencé là. Quand j'ai eu la première souris, là, c'était la souris de Mario Paint.
OK. Puis après. Continue, vas-y, je t'arrêterai pas.
Bon, c'est ça, la souris de Mario Paint.
Ok.
Début de mon obsession avec l'informatique.
Avec l'informatique puis le dessin, non?
Non, Max, non, lui, c'est l'informatique puis l'écriture, puis moi, c'est le dessin puis les jeux puis les films.
Ok.
Mais bon, ça m'a fait vraiment capoter. Parce que c'était vraiment haute technologie dans le temps, le Super Nintendo avec une souris, là. C'était comme un ordinateur. Là.
Ouais. Ouais, c'était inédit, c'était quelque chose qu'ils ont essayé de nouveau, puis ça, je sais pas si ça a vraiment pogné.
Je suis pas sûr que ça a pogné bien, mais nous, en tout cas, ça a pogné dans la maison.
J'ai une question métaphorique pour tout le monde.
Ok.
Comment que vous pensez que nos versions jeunes enfants réagiraient si on leur reculerait dans le temps et on leur donnerait comme une Xbox One ou une PS4? Est-ce que leur tête exploserait?
Je pense que oui, parce que dans ce temps-là, donc, t'es habitué à 4 carrés pour faire un personnage. Là,
ça, je me rappelle clairement quand on avait la Super Nintendo, quand on avait eu la première PlayStation, puis on disait « Oh mon Dieu, les graphiques, oh mon Dieu, ils peuvent pas faire mieux que ça, ça se peut pas. »
C'était pas ça, ma première exposition au graphique 3D, ça a été Mario 64.
Oh ouais.
Juste de voir en 3D, de pouvoir se promener dans un monde 3D de même, là, moi là, c'était incompréhensible. Là. Moi, j'étais la personne qui avait capoté quand elle avait vu Doom sur la Super Nintendo. Non, c'était sur la 32X. C'était sur l'expansion du Sega Genesis, me semble, la 32X.
Ouais, c'est ça.
tu le mettais sur le top de ta Sega. Puis là, ouais. On avait loué le Doom.
Parenthèse, la location de jeu a été comme 90% de nos souvenirs de gaming quand on était plus jeune.
Ouais, parce qu'on pouvait pas acheter de jeu.
On se payait la console, mais on louait la majorité de nos jeux parce que c'était trop cher.
Ouais, mais c'était quand même pas une méchante idée. Ça te permettait de jouer à tout plein d'affaires plutôt que de dépenser. Parce que, tu sais, comme ça a déjà été dit souvent sur le podcast, c'est que les jeux étaient pas moins chers dans le temps qu'ils sont.
Ah oh non, 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 surtout pas, là.
Fait que des jeux à 50$ dans le temps, t'en avais, là. Puis c'était loin d'être l'expérience de jeu que t'as aujourd'hui, même si on avait autant de fun avec, là.
Mais... Ben, c'était l'industrie des les locations était très, 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 très profitable dans ce temps-là. Puis il y avait rien qui me faisait plus chier que d'essayer de jouer à un RPG comme Secrets of Nevermore, puis essayer de loader ma game après un bout, puis me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui l'avait loué après, qui avait effacé toutes les games.
Moi, ça a été une de mes déceptions les plus gigantesques dans l'ère des Super Nintendo, c'était quand j'avais trouvé Earthbound.
OK.
Puis je l'avais loué, puis je l'ai loué à toutes les fins de semaine, là. Puis j'ai passé à travers presque 90% du jeu. À toutes les fins de semaine, je le louais. Je le retournais dimanche, vendredi à dimanche, pendant 2 mois, je pense.
Ouais, ben Max jouait, puis moi, je le regardais jouer.
Fait que là... On était rendu presque à la fin, puis là, on vient pour la louer un de ces quatre, puis il y a quelqu'un qui a effacé notre game. Parce que dans le temps de la Super Nintendo, les games étaient sauvegardés directement sur la mémoire de la cassette.
Ouais, c'est ça.
Quelle mauvaise idée!
Ouais, ben en tout cas, dans le contexte que le jeu t'appartient pas, c'est une très mauvaise idée, mais dans le contexte que le jeu est à toi, ça marche.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est juste que là, quelqu'un d'autre l'a loué, puis il a effacé ma game. Puis
c'était le premier cas de trolling.
Ouais. Ben, en tout cas, c'est poche parce que à cause de ça, j'ai jamais fini Earthbound. Fait que je m'étais fait faire le même tour avec Chrono Trigger sur Super Nintendo aussi.
Ou ce que tu allouais, t'allouais, puis
moment. Ouais, c'est ça, puis il y a quelqu'un qui a fini par effacer ma game, puis j'étais pas content.
Okay. Ouais, remplacé par le nom du joueur, comme CUL ou quelque chose.
Ah oh non, je pense pas, parce que je m'en rappelle pas, mais... Ouais, Earthbound, c'est un autre jeu qui m'avait vraiment... Ben ça, puis les Final Fantasy sur Super Nintendo.
Ça, c'était le 3 que t'avais joué beaucoup.
Ouais, sur Super Nintendo.
Ouais.
Final Fantasy 3.
Ouais.
Puis après ça, Super NES, PlayStation, avez-vous eu les consoles, pas mal, toutes les consoles en vous en allant, ou vous avez
sauté? S'il n'était pas nous autres, il était notre grand-mère, là, que je sais qu'après la 3DO... Puis tous ces jeux-là, on a eu la PlayStation 1 qu'on a pu jouer.
Mais c'était elle qui l'avait.
Alors on a commencé à jouer au Resident Evil, Silent Hill, le premier Silent Hill.
Ouais, ça, c'est mon moment de jeu favori. C'était quand on a joué pour la première fois à Silent Hill 1, le premier.
Mm-hmm.
Puis c'est Max qui l'avait loué. Puis il a commencé à jouer. Puis t'as-tu déjà joué au premier Silent Hill?
Silent Hill, non, j'étais pas un fan des jeux d'horreur quand que dans ce temps-là, j'aime plus ça aujourd'hui. Dans le temps, j'étais pas vraiment pas que ça me faisait peur, c'est juste que ça m'intéressait pas.
OK, mais au début quand tu joues un père qui perd sa fille dans la ville, puis elle cherche, puis là, il va au loin courir, fait que tu pars à courir après. Puis il arrive quelque part, tu sais, puis là, pour l'instant la ville est juste vide, puis c'est plein de brouillard, fait que là il arrive dans un genre de petite ruelle. Et il y a comme un terrain de soccer, de basketball, qui est comme une tête de chien en bas du basket, comme si quelqu'un avait joué au basket avec une tête de chien.
OK.
Je me rappelle vivement de cette affaire-là, qui c'était tout en graphique pas, 3D, pas très beau. Le Max, c'est lui qui jouait, puis là, il a vu ça, puis il a entendu comme un genre de son de grincement de métal dans le background, puis il a dit comme, non, je veux plus jouer.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'après ça, tu vas plus loin dans la ruelle, là, puis le plus que tu avances dans la ruelle, le plus qu'il commence à faire noir, puis ça devient rouillé, puis ensanglanté. Là, tu finis par trouver un cadavre attaché contre un mur, là, contre une grille. Puis là, tu te retournes de bord, là, puis des enfants pas de peau avec des couteaux qui te mettent à te poignarder les genoux.
Là, tu l'as mis à pause, puis t'as dit...
J'ai posé le jeu, je me suis dit, fuck that, je joue plus.
Fait que ça a été retourné, c'est tout?
Non, il m'a donné la manette, puis moi, j'ai continué.
OK.
Et ça a commencé mon histoire d'amour avec cette série-là.
OK, que tu joues encore à chaque fois qu'il en sort.
J'ai joué à toutes les synthés qui sont sorties. À part Book of Memories sur la Vita, parce que j'ai pas de Vita.
Ok.
Sinon, j'ai très hâte au prochain jeu Silent Hill avec Kojima puis Del Toro. Là.
Mm-hmm. L'espèce de démo qu'il y a eu où ce que tu te promènes dans un corridor là, et tout.
Le playable teaser.
C'est très prometteur parce que la série a un peu perdu du poil de la bête avec les développeurs américains.
Ok.
Je reste très je reste croyant en espérant qu'ils vont se ressaisir dans le futur, mais bon.
Okay.
Je reste optimiste.
Fait qu'après la PlayStation 1, il y a eu la Dreamcast.
Ah, oh, mon dieu, oui.
Ça, le jeu Shenmue, on a bien aimé ce jeu-là. On est
c'était un des jeux favoris de notre grand-mère, ça.
Ouais.
Ok.
Shenmue.
Puis c'est quoi ce jeu-là?
C'est comme un jeu de recherche que tu essaies de trouver qui a tué ton père.
Ben pas qui a tué ton père, c'est comme un film d'action de Kung Fu, tu sais, où il y a un méchant qui a tué ton père, puis là tu cours après à travers une histoire.
À travers un Japon années 80, genre très rétro, puis là, c'est particulier comme jeu. Le voice acting est pas bon.
Il y a du Kung Fu.
Il y a du Kung Fu un peu croche. Mais ça a quand même un certain charme, c'est dur à expliquer, là, mais c'est ça, puis Soul Calibur aussi sur la Dreamcast. Là.
Ouais,
Soul Calibur qui est un classique du jeu de combat.
Puis ouais. Resident Evil, Codename Veronica.
Puis c'était le fun parce que c'était la manette, elle avait un petit display dessus, tu pouvais voir comme ta force. Là,
c'était ta carte mémoire, mais quand tu l'as branché dans ta manette, c'était un écran comme un écran de calculatrice.
Mm-hmm.
Puis ça affichait des affaires, comme par exemple dans Resident Evil, Codename Veronica, tu pouvais voir ta santé directement sur ce petit écran-là.
C'était comme le précurseur au deuxième écran, comme dans la Wii, des trucs comme ça.
Ouais, c'est ça, non, c'était bien comme console, c'est juste, elle a pas toffé, c'est-tu le piratage ou toutes sortes d'affaires?
Ben, piratage, c'est... aussi le fait qu'elle était chère, puis qu'il y avait pas beaucoup de jeux qui sont sortis pour.
Et aussi Sega.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Il a trouvé sa niche éventuellement.
Fait que après la Dreamcast, il y a eu la PlayStation 2.
Ouais,
au début, on était pas capable de l'acheter, fait qu'on la louait à un club vidéo. Puis c'est là qu'on a loué. On louait la console plus Silent Hill 2.
Ouais, ça c'est mon jeu de la série Silent Hill favori, c'est le deuxième.
Ouais, on invitait nos amis à venir jouer chez nous là, le soir, on fermait les lumières, puis on montait le son, puis on se foutait à la chienne.
Ben, j'imagine, parce que là, PlayStation 2, on commence à parler de graphismes plus proches du photoréalisme.
Ouais, ben, à un tel point que je me rappelle clairement l'intro de Silent Hill 2, où c'est que là, ça commence, puis là, un moment donné, le gars se regarde dans le miroir, puis finalement, il se dit, non, il se passe rien, puis le jeu avait commencé, mais je pensais que c'était encore une cutscene.
OK.
C'est genre le genre de gros saut de graphique, là, j'en revenais pas.
Ouais, mais bon, toutes les fois qu'il y avait une nouvelle console qui sortait jusqu'à la PlayStation 2, là, on était abasourdis par le saut en graphisme. C'est juste qu'après ça, la PlayStation 3, PlayStation 4, l'Xbox, le kit.
Bon, mais après la PlayStation 2, c'était la Xbox 360.
Ouais, parce que on était pas mal PlayStation quand on était plus jeune, après quand on a signé à acheter des PlayStation. Là.
OK.
C'est juste que là, quand la Xbox est sortie, on l'a pas acheté. On a switché à Xbox quand la 360 est sortie. Fait que ça a été PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast, après ça... Non, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox 360.
Puis après, c'était PlayStation 4 et Xbox One.
Xbox 360, on l'a acheté parce que tu l'as joué à Dead Rising.
C'est ça.
Le jeu de zombies, là. Un centre d'achat, là.
Parce que ça te rappelait Silent Hill, quoi? C'est-tu... Ou ouais, t'aimes juste les jeux d'horreur?
Je me rappelle plus exactement la raison.
C'était parce que c'était un jeu, c'était comme Grand Theft Auto, mais avec des zombies. dans un centre d'achat. Fait que tu peux aller dans les magasins, prendre des objets, puis t'en servir pour te défendre, puis faire des plein de patentes.
C'est juste le nombre de zombies qu'il peut avoir sur l'écran aussi, ça m'avait surpris. Là, quand je me disais, comme mon dieu, les graphiques.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui.
Tu l'avais-tu joué, toi, ce jeu-là, Dead Rising?
J'ai joué un petit peu. Mais pas beaucoup encore. Mon amour pour les jeux de zombies n'est pas grand. Fait que Dead Rising, pis ces jeux-là, j'ai joué un peu, mais comme Dead Island, j'ai joué un peu, mais j'embarque pas.
Ben toi, c'est plus les jeux de course, c'est ça?
Jeux de course, jeux d'action, shooter, choses comme ça, je suis plus là-dedans. Jeux horreur, des choses comme ça, plus ou moins. J'ai trippé BioShock, qui est un mix un peu de jeux qui va te faire sauter, puis de jeux de tir. Là.
Ouais.
Ça, j'ai bien aimé, mais je sais pas, jeu de zombies. Quoique BioShock, c'est un jeu de zombies, mais pas des zombies, à un moment donné.
Ouais, mais bon, la ligne est mince
entre des infectés et des zombies.
Ouais.
Mais bon.
À travers tous les jeux de console, parce que là, on a passé PlayStation, PlayStation 2, Xbox 360, mm-hmm. PlayStation 4, Xbox One.
Mm-hmm.
Il y avait aussi en parallèle ça, les jeux de PC qui ont commencé quand on a eu notre premier ordinateur dans les années 90, me semble. C'était sais, les vieux jeux, les shareware, les disquettes, je sais pas, tu sais, Doom, Duke Nukem.
Pis... Ouais, les premiers shooters, les premiers first-person shooters. Ouais.
Moi, je me rappelle parce qu'on avait acheté des shareware, on avait actuellement acheté des disquettes de shareware à un pawn shop.
Parce que c'était des crosseurs.
Parce que c'était des crosseurs, ouais. c'était la première expérience que j'ai eue avec Doom sur PC, c'était ça, c'était de... C'était sur un vieux ordi. Ouais, sur un vieux 380 quelque chose, je me rappelle plus exactement. Ouais.
C'était en DOS seulement.
Ouais. Puis ça, c'était là que ça a commencé le gaming sur PC, puis aussi mon obsession avec les ordinateurs après Mario Paint.
Ouais.
Puis ça, le gaming sur PC, ça a toujours été en parallèle après un certain moment, là, où est-ce qu'on...
On se battait pour aller dessus, parce qu'il y en avait juste un.
Ouais, juste un ordinateur.
Ok.
Et t'as fait ton heure, c'est à mon tour, punch.
Puis y a-tu des jeux uniquement PC qui vous ont marqué?
Ben, il y avait System Shock.
Ok, ouais.
System Shock 2, les précurseurs à BioShock, là.
Mm-hmm.
Il y avait Doom, Doom 2, Duke Nukem, Shadow Warrior, Worms.
Worms,
ouais. Les jeux de Worms, là, ça avec, j'avais pas mal trippé là-dessus.
Ouais, ouais, ça c'est
Il y avait les jeux massivement en ligne aussi qui nous avaient comme vraiment comme
commencé. Ça, c'était au début du secondaire, on a commencé à capoter tous ces jeux en ligne. Là. Le premier jeu qu'on avait joué, c'était Ultima Online.
Ok, ouais.
Tellement
joué à ce jeu-là.
Ouais, mais c'est ça, c'était... C'est drôle parce qu'on a encore la carte du monde de Ultima Online sur notre mur dans le salon. Là.
Souvenir. Mais je me rappelle clairement, notre mère avait pas de carte de crédit, fait pour avoir du game time pour jouer, il fallait qu'on leur envoie de l'argent, un chèque, un mandat de poste par la poste, puis eux nous renvoyer un code pour un mois de jeu. On l'achetait par trois mois.
Ok.
C'était très, très, très bizarre. Comparé à ce qu'on fait maintenant.
Ouais, où est-ce que 30 secondes et ta carte de crédit est facturée pour
pouvoir un an? Elle avait comme un blocage avec la carte de crédit pour dire si t'as une carte de crédit, tu peux perdre le contrôle sur tes dépenses, fait que fais-le pas.
Ou tu peux te la faire voler en ligne si tu le rentres sur un site.
Ouais.
Bon. Fait que ça
passait
pas.
Ok. Ben c'est correct. Au moins, vous aviez la possibilité de jouer pareil.
Ah, bah oui, c'est certain. Mais...
On s'en est bien sorti.
Fait qu'aujourd'hui, PlayStation 4, Xbox One, vous jouez encore, c'est sûr. Y a-tu des jeux que présentement ils vous font encore triper? Tu t'as dit que t'attendais le prochain Silent Hill, mais y a-tu des jeux présentement sur les nouvelles consoles qui vous font triper?
Présentement, je suis en train de jouer à Sunset Overdrive. C'est très bon. C'est un peu trop wacky par bout, mais bon. Le gameplay il est intéressant.
C'est assez pété, ouais.
C'est un jeu qui essaie de... C'est comme le coup de coude, mais incarné, tu sais, c'est comme... On dirait que le jeu te donne des coups de coude à toutes les 5 minutes pour dire « Hey, t'es dans un jeu vidéo, hey, regarde comment je suis drôle, tu sais, on est tout au courant que t'es dans un jeu vidéo. » Clin d'œil.
Ouais.
Sans arrêt, là. Non,
le clin d'œil est tellement gros puis fort qu'il fait du vent.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Non, c'est drôle au début. Puis à un moment donné, ça vient comme. Ouais, je sais.
Le gameplay il est bon. Puis, bon, ouais. Sinon, Max, il jouait à Shadows of Mordor.
Ouais. Il y avait. C'était quoi? Destiny aussi.
Ouais.
Destiny.
C'est drôle parce qu'on a tous les deux Destiny, mais moi je l'ai sur Xbox One et Max là sur PS4. Ça, on peut pas jouer ensemble.
Ça, je pense que c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue. C'est que j'ai acheté le bundle de Destiny. C'est comme ça que j'ai eu ma PS4.
Ok.
Et puis là, mon frère a dit, j'aimerais ça jouer à Destiny moi avec, mais tu sais, fait que là, il commençait à dire, ouais, mais peut-être que j'aurais acheté une PS4 moi avec, je pourrais la mettre dans le sous-sol pour pouvoir jouer ensemble sur deux consoles, parce qu'il n'y a pas de mode de coop sur le même écran.
Ok, ok.
Parce que nous, on aime bien ça jouer à des jeux coop. Tous les jeux de coop sur toutes les consoles, on a toujours aimé ça. C'est soit se taper sa gueule ou être l'équipe parfaite, un des deux.
Parfaite.
Okay. Presque.
Grosse tête.
Mais ouais, non, ces temps-ci, c'est ça, c'est Shadow of Mordor, puis...
Mon ami Steve m'a passé Alien Isolation. Apparemment, okay. c'est très épeurant. J'ai joué un peu avec lui une couple de fois, puis je suis porté à le croire.
Ok, ça a l'air pas bien. Moi, je n'ai pas entendu parler beaucoup, mais oui, moi aussi, je l'avais vu en disant « Ah, peut-être, je me laisserais peut-être tenter. » Mais vu les critiques...
C'est quoi tes jeux qui t'intéressent ces temps-ci?
Ces temps-ci, j'ai joué à Halo. Je suis pas mal sur Nintendo, sa Wii U avec Captain Toad, qui est pas sorti encore. Puis Pokémon, mais c'est ça. Ouh, j'étais un peu là. J'étais un peu là-dedans, ouais, c'est ça. J'étais un peu là-dedans d'un jeu à critiquer futur. J'ai rarement le temps présentement de jouer un jeu puis passer à travers. Fait que je joue un petit peu ici.
Mais. Tu joues à Forza Horizon 2?
Ben oui. C'est sûr. Pour moi, c'est mon jeu de l'année. Là. J'ai tellement trippé
c'est
là-dessus.
C'est bien le monde qui me dit que c'est très bon comme jeu, juste que j'ai pas encore eu le temps de l'acheter.
Oui, c'est vraiment excellent. C'est un monde ouvert. Le graphisme est bien correct en autant que tu bouges. Là. Si t'arrêtes, c'est un peu bizarre parce que si t'arrêtes puis le coucher de soleil ou le soleil change de position, tu vois clairement le soleil comme changer de position puis c'est un peu saccadé. Là, ça fait un peu bizarre. Puis l'ombrage que ça fait, c'est un peu bizarre. Mais si t'es en train de bouger, mais c'est un jeu de char de course, t'es pas supposé être arrêté sur le bord du chemin à faire pas grand-chose. Là. Mais oui. Ils ont tellement mis de stock dans ce jeu-là. Tu peux prendre des photos. Tu as des photos d'auto à prendre, puis ça donne des bonus, ça donne de l'argent. Tu peux prendre des photos de tes chars. Tu peux modifier tes autos comme tu veux. Moi, c'est vraiment mon jeu, mon meilleur jeu d'auto depuis un bon bout de temps.
Moi, quand j'ai vu ça, initialement, ça m'a fait penser à... T'avais-tu joué, toi, sur le 360, à Test Drive Unlimited?
Oui, je l'avais joué sur PC, moi.
Moi, je l'avais sur 360, puis j'avais quand même bien aimé ça, parce que c'était comme, t'avais l'île au complet pour faire ce que tu voulais dedans.
C'est ça.
Il y avait plein de side missions que tu peux faire aussi. C'était comme, je suis pas un gros amateur de jeux de course, mais il y avait deux jeux de course que j'avais bien aimé. J'avais joué à Gran Turismo 3 et à Test Drive Unlimited. Puis sinon, je sais pas, c'est très mitigant pour moi les jeux de course. Il y en a que je veux soit bien aimé ou d'autres que je veux pas être capable de jouer.
Ça, ben, j'aime beaucoup la série Forza, fait que j'ai joué au Forza 3, 4, Forza 5 aussi. Puis quand j'avais essayé la démo de Forza Horizon 1 sur la Xbox, j'avais pas été impressionné. Je disais, ah, ok, ouais, c'est le fun, mais tu sais, c'est comme un Most Wanted, ou c'est comme, tu sais, j'y ai pas donné sa chance. Puis Forza Horizon 2, j'y ai donné sa chance, puis c'est vraiment plus proche d'un Test Drive Unlimited où, oui, t'as des missions. Mais si ça te tente juste de partir sur un road trip, tu sais, puis conduire partout en Europe, puis suivre des routes, puis t'en aller n'importe où, t'es pas limité, tu sais.
Fait que c'est comme... Ça ressemble quand même à Test Drive Unlimited.
Ça ressemble à Test Drive Unlimited dans le fait que tu peux juste conduire, puis t'es pas toujours obligé de courser. Mais si tu veux faire des courses, tu fais des courses. Si tu veux juste te promener en auto, tu fais juste te promener en auto, t'arrêtes au garage, tu montes ton auto, tu mets la couleur que tu veux, les roues que tu veux, grosseur de roues, tu mets des body kits, tout le kit, puis après ça, tu vas juste rouler avec. C'est super le fun. Puis la température est changeante, tu vas rouler, mon nez va se mettre à mouiller, la pluie va arrêter, tu vas avoir un arc-en-ciel. C'est juste capoté, là.
C'est bon comme exclusivité pour la Xbox One.
Ouais. C'est une belle. Mettons que c'est pour un jeu qui est sorti pas loin du lancement. Là, pas loin. Peut-être une couple de mois après le lancement, là, ça vaut la peine.
Ah, c'est bon.
C'est un bon investissement.
Je suis très content de voir qu'ils sont en train tranquillement d'actuellement sortir des jeux pour les consoles de la nouvelle génération.
Ouais.
C'était très calme au début, disons.
Ouais, ça vient avec le temps, à un moment donné. Puis, tu sais, tant qu'à sortir de la cochonnerie, juste pour sortir, tu sais, sortir un jeu, juste pour sortir un jeu, on sait que normalement, les jeux de lancement, c'est pas les plus peaufinés, là.
Exactement.
Fait que, tu sais, t'as fait tout semaine d'attendre un peu, puis sortir de quoi un peu plus léché.
Mais t'as pas quelqu'un qui t'a 360, Max?
Oh, wesh. Ok, non, j'espère, je viens de me rappeler.
T'sais, c'était tellement shiny, là, que tu voyais rien.
Ouais. Le jeu qui, pas longtemps après, il donnait avec la console, là. Ouais.
Quasiment pas si tu la lançais ou par-dessus la tête quand tu essaies d'acheter la console. Prends ça aussi!
Puis ils m'ont dit non, c'est beau, garde-le.
Ouais, t'as oublié ton. Non, je peux pas, mon boss va mettre dehors si tu t'en vas pas avec.
Non, j'ai les mains pleines, je peux pas le prendre.
Ouais, c'était presque ça. Mais si on regarde les jeux qui s'en viennent à part Silent Hill, y a-t-il quelque chose qui vous intéresse?
Dans les jeux qui s'en viennent?
Ouais,
Y a Quantum Break qui a l'air assez intéressant.
Ouais, de la gang du jeu où ce que tu prenais ta douche, là. J'oublie ça.
Non, Quantum Break, c'est pas. C'est,
ok,
c'est
non.
La comédie, les créateurs de Max Payne.
C'est beau. Je pensais à un autre jeu. Je pensais
avec monsieur Max Payne lui-même, Sam Lake, monsieur face constipé, là.
Ouais.
Qui avait servi de modèle de face pour le Max Payne dans le premier, là, Max Payne.
Ok.
À chaque fois que je le vois, ce jeu-là, ça me fait toujours penser à ça, puis ça me fait rire.
Ouais. Parce que c'est ça, pour ceux qui savent pas, le premier Max Payne, il y avait. L'écrivain du jeu, Sam Lake, était le modèle qu'il avait utilisé pour le personnage principal et pour les segments dans le genre de BD graphic novel. Là.
Ok.
Puis il y a comme dans le jeu, si tu regardes sa face là, il y a comme une face, un genre de sourire, mais
avec le soleil d'en face.
Comme s'il était ébloui, exactement. C'est ridicule. Là. Mais bon,
il a fait un caméo dans Alan Wake.
Ouais.
Genre, il y a un talk show, il est assis, puis l'animateur, il dit « Ah oh, ouais, il fait la face! » Puis il fait la face, puis tout le monde s'applaudit.
OK. Fait qu'un genre de sourire avec les yeux, les petits yeux comme s'il forçait, là.
Ouais, c'est ça.
OK.
La bouche en...
Autrement appelé une face de Donald Reagan.
Okay. Ronald Reagan. Ou la phase de constipé, comme tu disais. Okay.
Ah, j'aime mieux la mienne. J'aime mieux ma version.
Ils ont chacun leur charme. Okay.
Pour moi, pour un jeu qui m'intéresse, qui va sortir bientôt, j'attends beaucoup Bloodborne, qui fait partie de la série de jeux difficiles de From Software, là, Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls 2.
OK. Des jeux qui coûtent une manette.
Ben non, mais c'est parce que...
C'était chanceux.
J'ai comme grandi, puis j'ai arrêté de lancer mon stock quand ça marche pas. Non, je suis bien patient. Honnêtement, je suis plus patient à ces jeux-là que GF, parce que GF, il a essayé de jouer à des jeux comme Dark Souls, puis il les a pas finis.
OK.
Moi, je les ai finis.
Je fais comme... je joue un gros bout de temps, j'accumule comme 20-30 heures, puis à un moment donné, je meurs une fois de trop, puis je suis comme genre, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ouais, mais moi, c'est ça, c'est Bloodborne, puis... c'est quoi l'autre jeu aussi qui...
Mais attends, mais parlant de jeux comme ça, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que des fois, quand on joue à des jeux, faut toujours faire attention pendant. Comme si par exemple,
Matt, il joue. Ah, ça, c'est le désavantage de vivre ensemble.
C'est ça, comme si Matt, il joue à un jeu que je veux jouer, qui est dans le salon, moi, il faut que je quitte la pièce parce que je veux dire, je veux pas me faire spoiler. Fait que c'est comme un challenge, là, genre, de pas spoiler l'autre frère quand tu joues à des jeux.
Non, et puis ça doit. Faut que tu te retiennes des fois. Ah, j'ai joué à un jeu-là, c'était tellement écœurant à la fin.
On va en parler avant que l'autre l'ait fini.
Ben, dépêche-toi, comme. Les jeux de parce que je sais que toi t'aimes pas trop ça les jeux d'horreur là, mais la série de Walking Dead, les jeux de Walking Dead.
Ouais, j'ai fini le premier.
Jeff, il avait fini le premier, puis moi ça m'a pris comme et moi j'ai attendu que le dernier morceau de la série sorte pour le commencer.
OK. Ouais,
parce que Jeff lui il s'arrachait les cheveux, il dit "Quoi tu joues pas, je veux t'en parler. Je veux comparer ma game à la tienne." Mais puis moi je dis "Non, je vais attendre que la série soit finie pour que je puisse tout les passer une shot." Donc,
ouais, j'ai fait la même affaire, ouais.
Mais c'est pour ça que je suis très content de la nouvelle fonctionnalité de la Xbox One et de la PlayStation 4 qui permet de plugger des écouteurs à ta manette. Tu sais?
Ouais.
Ça, c'est... Pour ceux qui ne savent pas, tu peux le faire avec la Xbox One aussi. Il faut acheter un petit adapteur à 29$.
Ouais. Puis ça te permet de mettre tes écouteurs.
C'est là que la PS4 est meilleure que la Xbox
One. Ouais, mais la manette d'Xbox One, elle dure actuellement du temps.
Ouais, mais bon.
En tout cas, c'est un argument qui n'est pas fini. Mais... C'est pratique des fois de ne pas avoir le son à toute tête quand il y a des moments un peu touchy dans certains jeux.
Ouais, surtout quand t'approches de la fin ou quelque chose dans les cinématiques, puis ça vole le punch. Là. Ouais, je comprends. Puis à part de ça, on va finir pas longtemps là-dessus. Je vais vous poser la question qui tue. Le pire jeu de votre vie pour vous autres, c'est quoi? Le même, différent? Avez-vous un jeu que vous avez vraiment, vous avez joué à ça, puis c'est du temps que vous ne verrez plus jamais que vous avez perdu?
Moi, j'en ai un.
Vas-y.
Vas-y, j'aurais peut-être y pensé à un, moi. Avec.
C'était le parce qu'on sait que dans l'histoire des jeux vidéo, les adaptations de films ont pas la cote.
Rarement, ouais.
J'ai un souvenir très clair dans ma jeunesse, en Super Nintendo, il y avait le jeu de Cliffhanger, c'est que tu jouais un Stallone bizarrement proportionné, puncher des mondes, du monde, avec une musique répétitive qui finissait plus. Je me rappelle parce qu'on avait loué ce jeu-là pendant une fin de semaine, c'est qu'on avait tous les deux de la varicelle. Puis t'essayais de faire avancer ce gars-là, puis il y avait toujours des genres de trous partout, puis t'arrêtais pas de tomber, puis là, ça piquait partout. Puis c'était comme un mélange de mauvais jeux et de mauvaises circonstances se sont rencontrés ensemble pour faire un souvenir vraiment néfaste.
Beaucoup de frustration puis de démangeaison.
C'est pitoyable.
Ouais, mais ouais, moi, honnêtement, un des jeux les plus frustrants que j'ai jamais joué, là, c'est... Parce que moi, j'étais un gros fan de la Matrice, là, le film La Matrice.
Mm-hmm.
Et quand ils ont sorti le deuxième film, ils ont aussi sorti un jeu. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'était avec... C'était pas Enter the Matrix?
C'est Enter the Matrix, oui.
Ouais. Qui disait que ça allait continuer l'histoire du deuxième film. Là, t'allais jouer certains personnages du film, puis continuer l'histoire.
Okay. Puis
c'était tellement buggé, là, c'était tellement impossible à jouer. Là. J'étais tellement déçu d'avoir dépensé de l'argent sur ce jeu-là.
On avait retourné même avant que le temps de location était fini.
Non, ben c'est ça. C'est, ben, juste le louer, ça a été une perte d'argent. Non. Mais il y avait aussi... C'était quoi l'autre jeu aussi? Je me rappelle. Merde, non, je l'ai perdu.
Il a perdu. Puis si on va aux antipodes, votre meilleur?
Le meilleur jeu?
Ouais.
Ben, moi, personnellement, encore une fois, c'est Silent Hill 2.
Ok.
C'est juste une histoire qui est capable d'être touchante avec un punch que, dans ce temps-là, j'ai pas vu venir. Qui m'a pris complètement par surprise. Malgré du voice acting qui était pas super bon,
ben, ça...
l'ambiance, les ouais. graphiques, la peur de savoir qui se cache derrière la prochaine porte, en tout cas, j'y rejoue à peu près à toutes les 2-3 ans encore.
Ok, puis ça t'embarque encore.
Ça vieillit bien.
Okay.
Compte tenu des graphiques de ce temps-là, okay, par exemple, je parle pas de la version PlayStation 3 qui a été dans la nouvelle collection parce qu'ils ont complètement botché le port.
Ok.
Je parle de la version originale PlayStation 2.
Ok, ok.
C'est un classique.
Ouais. Ok, moi, mon meilleur jeu, honnêtement, je pense que c'est le premier Dark Souls. Parce que j'ai passé comme une centaine d'heures sur ce jeu-là. C'est un jeu qui était vraiment, 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 vraiment difficile, mais pas injuste. Fait que toutes les fois que tu avançais dans le jeu, tu avais l'impression que tu le méritais. T'avais l'impression que tu avais mérité d'avancer finalement. Parce que, à fur et à mesure que tu avances, ton personnage devient de plus en plus fort, mais en même temps, le joueur en arrière devient de plus en plus fort. Ce qui est preuve à l'appui, si tu recommences au début, en tant qu'un joueur de Dark Souls qui a déjà joué à Dark Souls, tu vas aller bien plus vite à travers le jeu que quelqu'un qui vient juste de commencer.
Ouais.
Ok.
C'est puis la manière que le jeu a une... Tu peux voir n'importe où dans le monde, comme tu vois un château au loin, tu sais que tu vas te ramasser là-bas à un moment donné. Puis il n'y a pas de map, il n'y a rien de gratis dans ce jeu-là. Là. Tu peux pas mettre à pause. Ok, ça c'est un peu chiant, mais en même temps...
Ça te drop dans le monde, ça te dit have fun.
Non, mais c'est ça, ça te met quelque part, là, puis tu dois deviner comment te débrouiller, puis l'histoire, t'es pas donné à une grosse boîte comme un buffet. Là. Tout est là, faut que tu le trouves, puis l'histoire est aussi présente, mais c'est subtil. Comme dans les descriptions des objets, certains personnages parlent puis donnent certains morceaux de l'histoire.
Bref, Max et Ian Richards en ont beaucoup à se parler.
Ben oui, ça c'est des grands amis.
C'est pour ça qu'on l'avait invité pour Dark Souls 2, parce que c'est une passion que lui et Max y ont ensemble. Fait que...
Mais pas ensemble, mais je veux dire, on a les deux bien aimé ces jeux-là.
Vous partagez la même passion.
Ouais.
J'ai joué à Dark Souls, puis présentement, il ramasse de la poussière sur une tablette.
Ah.
Je me suis tanné.
Fait qu'il penche plus du côté de GF de l'équation dans cette situation.
Ouais, mais je voyais quand même le potentiel du jeu puis la qualité du jeu. Mais à un moment donné, c'était juste comme ah, ok, je suis mort, ok, je suis mort, ok, je suis mort. Puis, c'est combien de manettes? Non, finalement, je vois la chose.
Ouais, mais c'est parce que les jeux maintenant, ça arrive. Ces jeux maintenant, là, tu peux plus perdre vraiment. Là. C'est comme les jeux maintenant, il faut qu'ils garantissent aux joueurs qu'ils vont finir par se ramasser quelque part. C'est pas comme les anciens jeux en Nintendo, pas en Super Nintendo, parce que le jeu était pas long, mais il était très difficile pour contrer le fait qu'il était pas long.
Ouais, c'est ça.
Quand tu achetais un jeu en Super Nintendo, t'étais pas garanti de le finir. Maintenant, quand t'achètes un Resident Evil ou un Far Cry... Il y a des checkpoints, Call of Duty, tu sais que le jeu te bloquera pas à jamais, puis
ouais,
tu vas
mais
être coincé.
De l'autre côté, c'est une mauvaise chose, ça. Parce que des fois, quand tu t'assises, t'as peut-être juste une heure pour jouer au jeu. C'est le fun, des fois, de finir ton heure de jeu, puis de dire, j'ai seulement avancé, au lieu de dire, comme, je suis mort 15 fois, puis j'ai appris de nouveaux sacs.
Ouais, en même temps, quand un jeu est difficile, puis tu avances, après, je sais pas, c'est comme si les jeux sont plus aussi difficiles qu'ils l'étaient dans le temps.
Ouais.
Mais c'est l'impression que j'ai.
Peut-être un bon mix des deux serait pas pire. C'est difficile, oui, mais t'sais, laisse-moi la chance de jouer une heure puis arrêter puis pouvoir sauvegarder ce que je veux.
Fait que si on se fie à celui qui dit, c'est il y a un terrain d'entente au milieu. Bref, la modération est bien meilleure.
Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, faut pas que l'heure ou les 2 heures de jeu que t'as mis soient perdues parce que finalement, il n'y a pas de checkpoint là puis tu recommences au début. T'sais.
Genre.
C'était comme un peu plate. Mais encore là, quand tu jouais à Mario, sa Super NES ou sa NES, puis tu perdais tes vies, tu recommences au début.
Ouais.
À Start, tu passes Continue, puis tu recommences ce que t'es rendu.
Tu recommences au début du tableau jusqu'à quand tu réussisses.
Ouais. Ce qui enlève un peu le but de plus avoir de vie, mais bon, quand même. C'est quand même des
ouais,
jeux
qui sont intéressants. Ouais, mais ça, par contre, maintenant, tu sais, les vies dans les jeux de Mario.
Mais quelqu'un qui dit « J'ai battu Ninja Gaiden sur la Nintendo, par exemple. » Ça a plus de poids que quelqu'un qui dit qui a fini Call of Duty, par exemple.
Ouais.
Ça y a pris plus de temps.
Ouais, c'est certain.
Regarde, j'ai fini le premier Ninja Gaiden sur la Xbox 360 quand ils l'ont sorti en remake.
Ouais, c'était pas facile ça non plus.
Non.
Un petit peu difficile. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas un jeu qui était facile en partant. Fait que non, les remakes en masse sont pas plus faciles que les versions originales.
Ouais.
Du moins, on espère. Ben, messieurs, on va finir ça là-dessus. Ça fait quand même quoi, 1h24 qu'on jase quand même pour payer. Ah, c'est quand même, ça passe quand même assez vite quand on a. Ben, en tout cas, moi j'ai du plaisir, vous autres, je sais pas. Mais
c'est quand non, même c'était pas terrible.
C'est terrible.
J'ai le goût de pleurer.
Ok, ouais, ben, moi je vais vous laisser tranquille. Vous allez pouvoir aller faire quelque chose d'agréable au moins pour le temps qui vous reste. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment agréable. J'ai aimé ça en apprendre un peu plus sur vous autres parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on se suit sur Twitter puis qu'on jase, puis on s'est rencontrés une couple de fois, tu sais, mais des fois, tu sais, par Twitter, c'est différent que de jaser en. Pas en personne, mais par Skype, qui est très pratique. Fait que j'ai trouvé ça bien cool, puis je pense qu'il y a bien du monde que ça va intéresser d'en apprendre un petit peu plus sur vous deux. Si les gens veulent vous rejoindre, comment est-ce qu'ils font ça?
C'est très simple. Vous pouvez aller à jumeautechno.com. On a aussi une page Facebook, Google+, on a aussi un compte Vine, si vous voulez voir des petites vidéos humoristiques de 6 secondes.
Notre compte Twitter, jumeautechno en un mot.
C'est ça. Puis on peut aussi jouer avec nous sur Xbox Live, PlayStation Network et des trucs comme ça. Avec notre compte Jumeau Techno.
Ok.
Puis sinon, ben pour le site internet, du nouveau contenu tous les vendredis à 11h. Et des secondes de plaisir.
Ouais.
Ouais, c'est super. Non, j'aime bien ce que vous faites. Je trouve que vous avez beaucoup de talent. Puis c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours comme... Moi, j'aime le fait de la BD puis du texte en bas qui développe un peu sur votre idée puis qui a rapport avec ce qu'on a vu en haut. Je trouve que c'est vraiment intéressant, puis c'est quelque chose que je sais pas, j'apprécie beaucoup aller voir. Je peux pas y aller toutes les semaines malheureusement, mais souvent je vais y aller puis je vais en lire comme quatre de fil, où là je vais regarder, ok, c'était où la dernière fois que j'étais rendu, puis là je clique, je recule, puis là j'avance.
C'est gentil de dire ça, c'est vraiment, merci de nous avoir invités, on apprécie beaucoup, parce que on n'en parle pas souvent de qu'est-ce qui nous a amené à faire ça aussi, fait que je suis content d'avoir pu partager ça.
Ben, c'est ça, c'est intéressant parce que des fois, il y a du monde qui se disent, ah, tu sais, j'aimerais ça, faire ça, puis comment ça marche, ça? Ben, en expliquant, en voyant que c'est une passion, puis il faut que tu persévères un peu.
C'est ça, tout est possible, puis la seule affaire que tu peux faire pour réussir là-dedans, c'est un, persévérer longtemps, et deux, être constant. Parce qu'il faut que tu sois capable d'offrir quelque chose que tu sais que tu vas toujours être capable d'aller voir à ce moment-là.
Ouais.
Les gens sont bons là-dessus, mais sérieusement, tout est possible. Si jamais vous pensez faire ça dans le futur, ceux qui écoutent, lâchez-vous lousse, parce que c'est poche le regret.
Ouais.
Il n'y a rien, tu perds rien à essayer.
Non, c'est ça. C'est des sages paroles.
On peut dire.
Ouais, on peut dire.
Donc, fois, ça arrive. Ça nous arrive.
Ouais, mais avant qu'on embarque des niaiseries par-dessus ces sages paroles, je vais vous dire merci beaucoup. Et puis, ben, bon succès dans ce que vous faites. Puis j'espère que ça va durer encore longtemps.
Ouais, merci,
merci.
Bonne soirée. Puis merci d'avoir participé à ce merveilleux podcast. Pour les gens qui veulent me suivre sur Twitter, c'est Ascalazormo. On a une page Facebook. Il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe là-dessus. Mais si vous allez sur Facebook, c'est Facebook /CJUAP. Et puis il y a le compte Twitter de CJUAP aussi qui est à CJUAP, qui est pour Histoire de Gamer. Ça s'appelle CJUAP, là, mais ça c'est de vieux souvenirs. C'est Histoire de Gamer. Donc ça, puis si vous voulez m'écrire, ben allez-y sur Twitter, là, c'est la meilleure manière de me rejoindre. Normalement, je vais vous répondre. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission, encore pour la 14 000e fois. Merci les gars. Et puis nous, ben, on se reparle la prochaine fois. Je peux pas vous donner de date précise pour la prochaine émission. Là. Je pars 2 semaines pour le travail au Nouveau-Brunswick. Donc, ça se pourrait que j'aie de la misère à faire des podcasts dans les prochaines semaines, mais aussitôt que je me trouve un invité et puis du temps pour le faire, je vous mets ça en ligne. Donc, merci encore, puis je vous dis à la prochaine. Bye.
Bye. Salut.